Toute l'information vous est présentée par Christophe Carré, que je salue. Bonjour Christophe.
Bonjour Wendy.
Avec à la une d'abord les sociétés d'autoroutes. Dans le viseur de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie veut des péages gratuits le week-end ou aux heures de pointe et moins chers, en tout cas de 10% pendant la semaine.
Les sociétés d'autoroutes qui sortent tout juste d'une rencontre à Matignon avec Manuel Valls, nous y serons en direct. Le grand ménage dans les cercles de jeux parisiens, la police a fait une descente ce matin au club de la rue Cadet. Une quinzaine de personnes est en garde à vue. Opérer les enfants sous hypnose, c'est une toute nouvelle technique. Europe 1 y a assisté à l'hôpital Trousseau.
Midi 14h, Europe Midi.
Des autoroutes gratuites le week-end ou aux heures de pointe, voici la proposition choc ce jour de Ségolène Royal.
Oui, la ministre de l'écologie trouve que les péages sont trop chers. Pour elle, quand un automobiliste paye 100 euros, c'est 20 de trop qui sont empochés par les sociétés d'autoroutes. En plus de la gratuité le week-end ou aux heures de pointe, elle veut aussi une baisse de 10% du tarif pendant la semaine. Il y a quelques jours, elle avait déjà émis l'idée de taxer leurs profits. On imagine l'ambiance. Les sociétés d'autoroutes étaient justement ce matin à Matignon, reçues par Manuel Valls. Carole Ferry, vous êtes en direct pour Europe 1. À la sortie, ça donne quoi ?
Eh bien, écoutez, c'est le flou artistique hein, ce matin. Ségolène Royal a bien lancé cette petite bombe. Vous l'avez dit, la gratuité des péages le week-end, 10% de moins la semaine. Difficilement envisageable, répond Manuel Valls ce matin à l'issue de la réunion avec les dirigeants des sociétés d'autoroutes. Même les parlementaires socialistes proches du dossier ont du mal à y voir clair. L'un d'eux me disait « De toute façon, Ségolène Royal négocie en coulisses depuis des mois. Elle a donc forcément bon espoir d'obtenir gain de cause. » Un autre me dit que c'est juste pour faire le buzz, le besoin d'exister de la ministre de l'écologie. Mais il y a bien tout de même un objectif commun, c'est d'arriver à négocier un effort de la part des sociétés d'autoroutes qui affichent une rentabilité exceptionnelle de 24% selon l'autorité de la concurrence. Une idée fait d'ailleurs également son chemin chez les parlementaires. Racheter les sociétés d'autoroutes, ça coûterait entre 20 et 30 milliards d'euros. De l'argent qu'il faudrait emprunter, les taux sont bas actuellement. Mais le pari est tout de même risqué vu la situation des finances de l'État.
Merci Carole Ferry en direct de Matignon pour Europe 1.
Elle dirait ça pour faire le buzz, elle va être contente Ségolène Royal. En attendant, on va parler de ce sujet à 12h45 avec Olivier Faure. Il est porte-parole du Parti Socialiste. On se demande ensemble si prélever les profits des sociétés d'autoroutes est réaliste. Lui est plutôt très circonspect sur le sujet. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir au 3921 et sur Twitter, hashtag E1 midi, Christophe Carré.
Le gouvernement va devoir aussi trancher sur les allocations familiales. Les députés PS veulent les moduler en fonction des revenus. D'après nos informations, rien ne changerait jusqu'aux 14 ans de l'enfance. N'est ensuite que la modulation interviendrait. On y revient en détail dans le journal de midi et demi. Concernant cette fois les allocations chômage, c'est le patron du MEDEF qui s'invite dans le débat. Pierre Gattaz appelle les syndicats à rouvrir le dossier dès janvier. Il estime que la convention agréée en juin dernier est imparfaite et qu'il faut remettre le dossier sur la table.
Une nouvelle opération de police, c'était ce matin dans un cercle de jeux à Paris. Une quinzaine de personnes en garde à vue.
C'est le cercle Cadet qui a été visé. C'est un des hauts lieux du poker à Paris. Qu'est-ce qu'on lui reproche, Alain Co?
Mais l'enquête a été ouverte il y a un an pour blanchiment en bande organisée, extorsion, abus de confiance et association de malfaiteurs. Pour faire simple, les policiers du service central des courses et jeux de la DCPJ soupçonnent le patron de ce cercle réputé, le plus gros encore en activité en France, avec 200 employés, d'avoir mis en place une double comptabilité qui lui permettait de sortir discrètement de 5 à 30 000 euros par jour. Serge Kasparian, c'est son nom, est propriétaire de plusieurs restaurants à Paris et Aix-en-Provence. C'est aussi un actionnaire du club de foot de Nîmes. Et pourtant, selon nos informations, il serait interdit bancaire en France. Sa fortune personnelle est au Maroc, où il a notamment acheté un riad à Marrakech, mais aussi l'ancienne villa de Charles Aznavour. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce dossier très précis.
Alors Alain, il y a un mois, c'est l'Aviation Club de France sur les Champs-Élysées qui avait été visé. On est dans le cadre d'une grosse opération contre les cercles de jeux.
Oui, il y a une volonté très nette depuis quelques années de faire le ménage dans ces cercles de jeux qui avaient été créés après la Deuxième Guerre mondiale, souvent confiés à des Corses avec le statut d'association loi 1901 sans but lucratif. Les nombreux dérapages de ces dernières années, la mainmise du grand banditisme corse et marseillais sur les cercles de jeux ont conduit les pouvoirs publics à serrer la vis, si j'ose dire. Il ne reste plus aujourd'hui que deux cercles encore en activité à Paris et un à Reims.
Merci Alain Co, chef du service police-justice d'Europe 1. L'armée turque a bombardé hier soir des positions du PKK dans le sud-est de la Turquie. C'est la première fois depuis le cessez-le-feu de mars 2013. Cela intervient après les émeutes qui ont enflammé la communauté kurde ces derniers jours. Elle dénonce l'inaction d'Ankara contre les djihadistes dans la ville kurde de Kobané, au nord de la Syrie. Une nouvelle victime d'Ebola en Europe. Un employé de l'ONU est mort à l'hôpital de Leipzig en Allemagne. Il avait contracté la maladie au Libéria.
Il est midi 6 à l'écoute d'Europe 1 et écoutez bien justement, des médecins pratiquent l'hypnose pour opérer les adultes et c'est une technique qui se met en place de plus en plus pour les enfants.
Oui, pour l'instant, il n'y a qu'un seul établissement en France qui utilise cette méthode, c'est l'hôpital Trousseau à Paris. C'est complètement nouveau. Habituellement, pour opérer un enfant, dans 96% des cas, on procède à une anesthésie générale. Sébastien Krebs, vous avez vu plusieurs de ces petits malades qui ont bénéficié de ce dispositif. Ça se passe comment ?
Eh bien, pour vous, ça c'est très facile. Vous fermez les yeux et vous écoutez une voix.
Tu vas inspirer ces molécules d'oxygène et qui te donnent une sensation de bien-être partout dans le corps. Voilà.
Voilà une voix douce et monotone, celle de l'anesthésiste qui, au lieu de vous endormir avec une piqûre, vous parle et vous emmène dans votre monde imaginaire. Ça marche évidemment très bien avec les enfants. Écoutez le témoignage de cette jeune fille. Elle a 14 ans, sans l'hypnose, elle n'aurait pas pu être opérée car l'anesthésie générale était trop risquée pour une intervention assez sérieuse au cou.
Je me concentrais sur sa voix et c'était bizarre parce que je pouvais que me concentrer sur sa voix, sur rien d'autre. On m'a fait oublier que j'étais dans une salle d'opération. On m'a tout de suite transporté dans un autre monde en quelque sorte. Quand on me mettait le truc sur le doigt pour voir le pouls, on m'a dit que c'était une bague par exemple. Mais après quand il y a l'acte, en soi-même on le ressent, mais enfin on ressent pas de douleur. Comme si quelqu'un vous touchait avec son doigt, sans plus, sans douleur.
Voilà, son seul souvenir, c'est celui d'une sensation de relaxation absolue. Elle est encore consciente pendant toute l'opération, mais son esprit est ailleurs comme déconnecté du corps. Et ça peut marcher sur chacun d'entre nous. Alors, il y a quand même une petite anesthésie locale pour les incisions, mais ça évite l'anesthésie générale. L'hypnose, elle est surtout utilisée aujourd'hui pour de petites interventions ou dans des cas comme celui-là où l'anesthésie générale est contre-indiquée. Et elle permet d'être opérée en ambulatoire sur la journée. Ça évite l'hospitalisation et c'est évidemment une dépense en moins.
Sébastien Krebs. Et puis un mot de Jules Bianchi, le pilote français de Formule 1 grièvement blessé il y a 9 jours au Grand Prix de Suzuka au Japon. Sa situation est désespérée, dit ce matin son père dans un entretien au quotidien sportif italien Gazzetta dello Sport. Il dit que Jules est fort et qu'il gagnera son tour de qualification le plus important.
Ouais, c'est terrible évidemment. Merci beaucoup Christophe Carré. On se retrouve à 12h30 pour les infos. Voici Valérie Darmon qui nous rejoint pour nous annoncer une météo beaucoup plus calme dans notre ciel et ça va nous apaiser.
Et oui, tout à fait Wendy. Le temps qui reste tout de même humide, de l'ouest de la Provence au Languedoc et aux Cévennes, avec des pluies passagères et des averses plus continues tout de même sur le relief, parfois orageuses d'ailleurs. Sur le reste du pays, le ciel qui est variable, conformément à nos prévisions, nuages éclaircis qui alternent, avec des nuages plus compacts tout de même du nord Pas-de-Calais à la Haute-Normandie, puis les températures
toujours douces,
qui sont douces, exactement, de saison, ou au-dessus, comprises entre 19 et 24, 16 à 19 au nord, jusqu'à 27 en Corse,
bien.
27 degrés pour une mi-octobre. 17 à Lille cet après-midi, 19 à Paris et Metz, 21 à Strasbourg et à Lyon, 23 à Angoulême et à Bordeaux.
Merci beaucoup. À tout à l'heure, Valérie Darmon. Premier rendez-vous d'info. Venez débattre avec notre invité, l'abbé de la Morandais. Expliquez-vous face à face sur les divorcés, sur les homosexuels. Est-ce que l'Église est rétrograde ? On en parle en tout cas de l'adaptation aux évolutions de la famille. En plein synode sur la famille au Vatican, vous nous dites ce que vous en pensez au 39-21 et dans le studio d'Europe 1. Vous avez la parole. À tout de suite.
Pour poser vos questions sur l'actualité, 39-21, 34 centimes la minute, et sur europe1.fr. Europe Midi, Wendy Bouchard. Expliquez-vous.
Expliquez-vous en direct, en public, chaque jour. Venez débattre avec une personnalité de l'actualité dans le studio d'Europe 1 au 39-21. Camille vous attend au standard. Vous faites face aujourd'hui à l'abbé de la Morandais. Bonjour mon père.
Bonjour.
Merci de votre présence. C'est un prêtre que vous savez curieux, ouvert, progressiste. Vous venez prendre position à midi sur le synode de la famille au Vatican parce qu'il s'est passé visiblement quelque chose hier à Rome. Un changement de ton à l'adresse des homosexuels. Voilà ce que disent certains spécialistes de l'Église qui vont même jusqu'à parler de tremblement de terre. L'Église qui voudrait, qui pourrait peut-être s'ouvrir aux nouvelles évolutions de la famille, tolérer les unions libres ou homosexuelles. Vous y êtes favorable peut-être, vous allez nous dire pourquoi. Même si certains catholiques conservateurs crie à la ruine de la famille. Vous avez 20 minutes pour vous expliquer. D'abord, L'abbé de la Morandais est avec nous. Vous publiez lettre ouverte aux fidèles et aux rebelles de l'Église et vous invitez les chrétiens à faire preuve d'audace. Est-ce que vous pensez que le pape François, aujourd'hui, a plus à perdre qu'à gagner en souffrant en s'ouvrant à ces nouvelles formes de famille et notamment ces familles d'union homosexuelle ?
Quand on se bat pour les valeurs évangéliques, on n'a jamais rien à perdre. Donc il n'a rien à perdre. Ça, c'est raisonné en termes, je dirais, en termes de commerciaux, en termes de marchandises, quoi. Sur le plan moral, il n'a rien à perdre. C'est un petit peu comme si on m'avait demandé, quand j'étais officier en Algérie, que je me battais contre la torture, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Bah oui, je ne ferai pas carrière. Ok. Mais lui, il s'en fout, puisqu'il est au top. Donc il n'a rien à perdre. Mais ce qu'il faudrait rappeler, c'est que les changements qui s'annoncent ne sont pas des changements doctrinaux. Il ne s'agit pas du dogme. Le dogme, c'est les fondamentaux, c'est ce qui ne peut pas bouger. La présence eucharistique, la Vierge Marie, la résurrection surtout, ça ne bougera jamais. C'est commun. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la doctrine et de la discipline intérieure, comme l'accueil des divorcés remariés, l'accueil des personnes homosexuelles, l'ordination des prêtres un jour, tout ça peut changer, ça n'a rien de scandaleux. Ça a changé toujours en 2000 ans d'histoire de l'Église.
Ça peut changer au nom de la miséricorde que veut mettre à profit le pape François. Je voudrais que vous réagissiez, chers auditeurs, juste après ce témoignage recueilli par Walid Berissoul, parce qu'il est écrit dans ce texte, donc à mi-parcours de cette réunion collégiale au Vatican, les homosexuels ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. Écoutez la réaction de Julien et Bruno, couple homosexuel touché par cette position.
J'espère qu'on n'aura plus à se cacher, qu'on pourra être reconnu surtout comme couple. C'est ça qui, je pense, va être fort. Ça paraît idiot, mais on est obligé aujourd'hui de cacher son couple. Ça veut dire qu'on ne se sent pas forcément très à l'aise dans l'Église, quoi.
Et là, ce texte, on sent qu'il commence à y avoir des pas pour dire, dans un couple homosexuel, même si le mot n'est pas utilisé, parce que couple homosexuel, ça continue à poser un problème dans l'Église, il peut y avoir des choses belles qui se vivent dans ce cadre-là.
Ça veut dire quoi, Alain de la Morandais ? Ça veut dire que jusqu'à présent, l'Église était rétrograde sur cette question du couple homosexuel ?
Pas partout, mais globalement, hélas, oui. Moi, je me souviens des années 80 à Saint-Méry, au moment où le centre Pompidou était en train de se construire. C'était le début un peu du Marais et du milieu gay. On avait un groupe dans la communauté de Saint-Méry qui était des jeunes homosexuels et qui était accueilli à l'époque. Bon, c'était pas très fréquent, mais je veux dire, enfin, ça arrive et tant mieux. Moi, je m'en réjouis. Ceci dit, le mot mariage, je trouve, n'est pas du tout adapté pour l'alliance entre deux homosexuels. Il y a un peu de la provoque de ce côté-là.
À titre personnel, vous y étiez favorable ?
Je suis pour l'alliance, oui, un pacte, un bon pacte, voilà. Mais pourquoi appeler ça mariage alors que sémantiquement, on brouille toutes les pistes ? Mariage, c'est un homme et une femme. Il y avait un côté un peu provoque politique de ce côté-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne se définit pas d'abord par sa sexualité. On se définit beaucoup plus par sa culture, par son identité d'éducation, d'héritage, plutôt que sa sexualité.
Alors dites-nous si l'Église fait bien justement de s'ouvrir sans toucher au dogme à ces nouvelles formes familiales. Robert Namias a tweeté sur notre compte « L'ouverture en direction des homosexuels marque un tournant historique pour l'Église et un démenti cinglant à la manif pour tous ». Voilà ce qu'il vient de nous dire. Dites-nous si vous pensez comme lui, jeune homme en studio. Vous pouvez interpeller Alain de la Morandais.
Oui, bonjour. Antoine de Rouen. Excusez-moi, mais pour l'instant, j'y vois pas très clair en gros dans ce qui va se passer, parce que donc si j'ai bien compris, il s'agit de reconnaître les homosexuels, de reconnaître les personnes divorcées, de les accueillir dans l'Église, mais pas de reconnaître leur couple, de pas reconnaître leur couple comme étant des couples légitimes. Mais dans les faits aujourd'hui, quand je parle à des amis etc qui peuvent être dans ces situations là, j'ai rarement vu un prêtre demander à un fidèle qui rentre dans l'Église, est-ce que vous êtes homosexuel, est-ce que vous êtes divorcé, qu'est-ce que dans les faits ça va changer, est-ce qu'on n'est pas simplement face à une opération un peu de communication.
Alain de la Morandais.
Pas à quelqu'un d'abord s'il est homo, hétéro, bi ou je ne sais quoi, c'est vrai. Mais c'est plutôt eux, souvent, je me souviens dans les années 80, en même temps c'était le démarrage du sida, donc c'était très difficile, c'est eux qui s'identifiaient tout de suite. C'était une façon de dire, même si je suis comme ça, est-ce que vous m'accueillez ? Mais un prêtre ne va jamais demander à quelqu'un comment vous êtes, quelle est votre sexualité.
Bien sûr, mais ces homosexuels qu'on a entendus à l'instant disaient que ça serait tellement bien si on n'avait plus à se cacher. Si on pouvait être intégré dans la paroisse jusqu'à preuve du contraire, on ne nous laisse pas la place que nous revendiquons aujourd'hui, Alain de la Morandais.
Eh bien, je comprends très bien leurs revendications, d'autant plus que dans les années 80, on les accueillait. Alors, ça ne va pas être facile, parce qu'il ne faut pas rêver. Mais la génération qui n'est pas la mienne, la génération plus jeune, celle à Paris, je dis bien à Paris, qui a été formée par le cardinal Duchigé, est une génération très conservatrice est pleine de préjugés. La collégialité que veut le pape François, ils savent pas ce que c'est, ils sont très cléricaux, ils n'ont pas envie du tout de laisser du pouvoir aux laïcs. Et puis ensuite, l'église pauvre pour les pauvres, ils savent pas plus ce que c'est. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que dans le document qui a été publié, on appelle à une conversion de l'Église, eh ben, il y a du travail.
Une conversion à ces nouveaux modèles familiaux. Alors, vous allez nous dire en quoi ce synode, pré-synode, peut bien nous donner foi en l'avenir, et en tout cas à certaines de ces communautés. Caroline sur Twitter nous dit « Moi qui fuis l'Église, cela me réconcilierait un peu avec ma religion, jusqu'à présent pour moi si moyenâgeuse. » Et nous avons Anne qui nous appelle de Bordeaux au 3921. Bonjour Anne.
Oui, bonjour madame, bonjour mon père. Oui, en ce qui concerne les divorcés remariés, bien écoutez, moi je suis contente que l'Église change un petit peu son fusil d'épaule, si j'ose dire, parce que je trouvais que c'était quand même un peu scandaleux d'exclure ces gens-là, qui n'étaient pas toujours responsables de leur divorce, qui ont eu une chance, une deuxième chance de bonheur, et c'était quand même dommage de les punir ainsi. Mmh. Et je suppose que la communion spirituelle dont on parle en particulier, ça ne pouvait pas satisfaire un vrai catholique, un catholique sincère, puisque la communion, c'est la vraie communion pour un catholique. Je trouve que c'est une bonne chose que maintenant, ça devienne quasi officiel. Mais je sais bien, moi aussi, que je connais un cas où une personne divorcée, remariée, avait pu communier grâce à son prêtre qui était tout à fait d'accord. Enfin, il y avait eu une entente à ce moment-là. Donc, effectivement, ça existait déjà. En ce qui concerne...
En individuel, Anne, c'est ce que vous dites, en individuel, le
oui,
fait que
en individuel, ça pouvait exister.
La
oui.
communauté reconnaisse tout entier ce divorcé remarié à la mort en death, c'est une mise au point évidente et fondamentale aujourd'hui du Vatican.
Moi, je crois qu'elle est très importante parce que, personnellement, je pratique l'accueil des divorcés remariés depuis plus de 10 ans. Bon, c'est la première fois que j'en parle dans un média parce que c'est pas la peine de faire de la pub. Maintenant, on peut en parler plus librement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je faisais pas une parodie de mariage. Pas du tout. J'étais en clergyman. Je leur disais, ben voilà, vous êtes divorcés. Jusqu'ici, la doctrine de l'Église ne permet pas, etc. Mais vous êtes baptisés. Vous faites partie de la famille. Vous partagez les valeurs. Vous aimez l'Évangile. Vous aimez le Christ. Donc, on va célébrer ensemble, dans l'espérance, votre nouvelle union. Si vous étiez orthodoxe, vous auriez de la chance, vous auriez droit à une deuxième chance. Vous auriez un deuxième mariage. Nous, on n'en est pas encore là. Ça va peut-être venir.
Voilà, en tout cas, vous mettez à profit votre pratique pour nous dire que l'Église était en avance dans certains diocèses, mais que le dogme ne bougera pas sur le sujet, que pour les divorcés remariés, oui, pour les homosexuels, l'Église doit aussi s'ouvrir. On va voir où vous nous emmenez les conclusions de ce synode avec d'autres réactions. Au studio, les auditeurs vous interpellent. Alain de la Morandais, à tout de suite jusqu'à 12h30.
Expliquez-vous.
En direct, en public, avec l'abbé de la Morandais qui vient défendre sa position autour de la discussion du synode sur la famille au Vatican, l'Église qui devrait s'adapter aux nouvelles formes de famille. Nous parlions à l'instant des divorciés remariés, mon père, des homosexuels, mais il y a aussi tous ceux qui vivent dans le péché hors mariage, l'union libre, enfin reconnue, l'union libre en 2014, c'est ce que vous dites, abbé de la Morandais?
Les concubins pécheurs publics, comme ils étaient appelés par le canon 1032, je crois, voilà. Mais écoutez, dans le livre que j'ai publié, il y a un texte de André 23, aujourd'hui cardinal archevêque de Paris, co-président du synode de la famille. Or, ce jeune théologien, en 79, avait publié un papier où il disait peut-être quand même qu'il faudrait reconsidérer la position de l'Église vis-à-vis des pécheurs publics concubins, parce que s'ils vivent ensemble et qu'ils ont un vrai projet, oui, on devrait les considérer un peu mieux.
Ça fait 35 ans.
Voilà, et ben je me suis, depuis 79, et depuis il a accédé aux plus hautes charges de l'Église, président de la Conférence épiscopale de France, archevêque de Paris, et silence muet.
Bon, expliquez-nous, Myriam sur Europe1.fr nous demande, qu'elle nous dit qu'elle a du mal à imaginer ce qu'est un synode et où ira ce qui est dit et écrit. Est-ce que le pape François en tiendra forcément compte de ce qui se dit en ce moment à Rome?
Oui, d'ailleurs, le porte-parole officiel, Monseigneur Fortel, l'a dit, ce document qui vient de sortir prépare une ouverture d'esprit et, comme je le disais tout à l'heure, appelle à une conversion des mentalités. Donc, il ne sera pas question de revenir en arrière.
Les auditeurs s'expliquent et vous interpellent.
Oui, bonjour mon père, Augustin. Moi, j'ai une question, c'est même pas une question, c'est entre ce qui va se passer dans les actes et avec le synode et le changement de mentalité au Vatican... ce qui va être plus dur à faire, c'est dans les faits. Est-ce que dans les paroisses, ces gens vont forcément être tout de suite ouverts aux couples homosexuels dans l'Église et à tout ce discours-là qui va être difficile pour certaines personnes dans l'Église?
Vous pensez que ça divisera plus que
je pense que moi ça divisera plus que ça rassemblera, parce que c'est quelque chose sur le long terme et pas un synode qui va durer dans les paroisses. Il y a des paroisses où ça se fera pas.
Alors là, il faut s'adresser au lobby des plus conservateurs. C'est comme ça qu'on les appelle, Alain Labrandé.
On en a parlé tout à l'heure. Il faut une conversion totale des mentalités. C'est vrai que si on continue à avoir des préjugés sur les homosexuels, à les traiter de pestiférés, etc. Mais j'allais dire, c'est pas à l'Église de s'adapter. En vérité, l'esprit de l'Évangile, c'est d'abord l'accueil et la miséricorde. Mm-hmm. Si on tient ce bout-là, on sera jamais à côté. Bon, il y en a qui sont pas contents, qui s'en iront. Ça, c'est sûr. Mais je dirais, on prend ce risque-là. Il y a une fameuse parabole de l'Évangile, je sais pas si vous en souvenez, mais c'est le berger qui part, et il laisse les brebis dans la bergerie, il y en a une qui est perdue. Donc il part, il s'en va, il passe des jours et des jours à rattraper la brebis perdue. Ben, pendant ce temps-là, il s'occupe pas du troupeau. Bon, la brebis perdue passe avant le gros du troupeau. Conclusion.
Et voilà, et le père Louis réagit sur Twitter à l'instant. L'Église ne change pas dans sa doctrine, ce que vous nous disiez, Alain Labrandé. En revanche, elle cherche à accueillir les personnes là où elles sont, dans cet esprit que vous soulignez de miséricorde. Encore une question, madame, en studio.
Oui, je voudrais savoir si le mariage des prêtres a été évoqué, ou même parce que vous avez un prêtre chanteur là qui a démissionné pour se marier. Alors,
non, il n'était pas prêtre là.
Il n'était pas prêtre, mais il était sur le chemin de la prêtrise quand même.
Alors là, la question. Moi, j'aime pas l'expression mariage des prêtres. C'est ordination des gens mariés.
Oui.
C'est pas la même chose. C'est ce qui se passe dans l'Église orthodoxe.
Bien sûr.
Vous êtes copte, si vous êtes libanais maronite, si vous êtes grec catholique, vous pouvez être prêtre et marié. C'est pas un problème.
Pourquoi pas chez nous?
Ça arrivera. Mais oui, c'est pas un problème de dogme, c'est un problème de discipline intérieure, de doctrine. Donc le pape peut très bien le changer en accord avec un synode. Là, je suis très confiant.
Qu'est-ce qu'il en pense?
Mes petits-enfants le verront, peut-être pas moi. Bon, si j'ose dire.
Je
blague.
Oui, allez, monsieur en studio, allez-y. Vous rendez pour répondre.
Donc vous nous confirmez que ce n'est pas à l'ordre du jour du synode actuel?
C'est pas à l'ordre du jour du synode actuel, non. Bah, écoute, pas à pas.
Est-ce que l'Église reviendra sur son opposition au mariage gay? Est-ce qu'elle le fera seulement dans les années qui viennent?
On trouvera une formule, on l'appellera sûrement pas mariage, mais pourquoi ne pas les accueillir? Parce que moi, je connais plein de jeunes cathos pratiquants, d'ailleurs, qui sont accueillis dans certaines églises. Et pourquoi pas les accueillir officiellement, puisqu'ils ont le baptême et partagent la même foi, les mêmes valeurs.
Le pape François, vous le disiez, n'a rien à perdre, n'a rien à gagner dans cette histoire. Est-ce qu'il est le pape le plus révolutionnaire que vous avez connu, Madame Labrandé?
C'est pas révolutionnaire. Moi, nous étions ensemble à Rome, à la Grégorienne, c'est l'université des Jésuites. On a suivi le concile ensemble. Et c'est vrai que moi, c'est la consolation de mes vieux jours. Je vais avoir 80 ans et je me dis, ah, enfin, on va mettre le concile en œuvre. Parce que, quelles que soient les éminentes qualités de Jean-Paul II et de Benoît XVI, la collégialité, l'église pauvre pour les pauvres, tout ça était resté complètement sous le boisseau. Donc, oui, bravo, viva Francesco, mais il faut que les plus jeunes de mes confrères se convertissent aussi. Hein.
Eh bien, si vous voulez jouer cet esprit de conversion, lisez Alain de Labrandé, Lettre ouverte aux fidèles et aux rebelles de l'Église, prêt pour la révolution tranquille avec le pape François, c'est aux éditions du Passeur. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alain de Labrandé, merci pour cette explication face aux auditeurs. On se retrouve avec toute l'information et puis on va parler d'un sujet beaucoup plus concret et qui va vous faire réagir. Les péages, peut-être de nouveau dans le collimateur du gouvernement. On vous donne la parole avec Olivier Faure, porte-parole du PS, dans un instant. En attendant, il est 12h30. Voici toute l'info avec vous, Christophe Carré.
Les députés socialistes relancent la bataille autour des allocations familiales. Ils veulent les moduler en fonction des revenus. Déclaration de guerre, réagit déjà l'UMP. L'armée turque a bombardé des positions du PKK hier soir dans le sud-est de la Turquie. Tout est lié à la bataille de Kobané en Syrie. Les Turcs font face à deux ennemis, les Kurdes et les djihadistes. Du foot, la France face à l'Arménie. Ce soir à Erevan, match amical, mais gros enjeu pour les Bleus qui n'étaient pas titulaires samedi face au Portugal.
Midi 14h, Europe Midi.
Et la bataille autour des allocations familiales n'est donc pas terminée. Les députés socialistes veulent bien les moduler.
Oui, pour faire 700 millions d'euros d'économies dans la branche famille de la Sécurité sociale, le gouvernement a présenté plusieurs pistes. On a beaucoup entendu parler de la réforme du congé parental ou de la réduction de la prime de naissance à compter du deuxième enfant. Alors Jumet, les députés socialistes disent pourquoi pas, mais avec un assouplissement. Ils veulent surtout introduire une modulation des allocations familiales en fonction des revenus.
Oui, mais c'est une modulation à minima.
on ne touche pas aux allocations familiales en dessous des 14 ans de l'enfant. Là, tous les ménages avec au moins deux enfants à charge continuent à percevoir le même montant qu'elles gagnent 2000 ou 20 000 euros par mois. Là où ça change, c'est à partir des 14 ans de l'enfant. C'est à ce moment-là que les députés socialistes veulent introduire des conditions de ressources. Aujourd'hui, une famille touche 64 euros en plus quand son enfant fête son 14e anniversaire. Eh bien, les parlementaires souhaitent plafonner cet avantage. Autrement dit, plus de bonus à partir d'un certain niveau de revenu. Exemple, un couple avec deux enfants qui gagne à deux plus de 4 300 euros par mois sera privé de ce supplément d'allocation. Ça représente sur un an pour eux une perte de près de 800 euros. Alors cette proposition du groupe socialiste est vue d'un bon œil par l'Élysée parce qu'on ne touche pas aux allocations de base, que ça ne concerne pas toutes les familles et que ceux qui sont impactés peuvent, me dit-on, vu leurs revenus, s'accommoder de ces quelques dizaines d'euros en moins par mois. Cette proposition a donc des chances d'être validée par l'exécutif. L'arbitrage définitif sera rendu prochainement, peut-être dès ce soir, lors du dîner hebdomadaire entre François Hollande et les ténors du Parti Socialiste.
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1, la modulation des allocations familiales, l'UMP, en tout cas n'en veut pas. La quasi-totalité du groupe à l'Assemblée parle d'une déclaration de guerre faite aux familles dans une tribune au Figaro. L'autre dossier brûlant, c'est celui des allocations chômage. Pierre Gattaz, patron du MEDEF, appelle les syndicats à le rouvrir en janvier. Il réclame aussi l'abrogation pure et simple du compte pénibilité, l'une des mesures phares de la réforme des retraites. Il juge le dispositif inapplicable et anxiogène pour les entrepreneurs. Des péages gratuits le week-end aux heures de pointe et moins chers de 10% la semaine. C'est la proposition formulée ce matin par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Manuel Valls, qui recevait les sociétés d'autoroutes tout à l'heure à Matignon, estime que ce dispositif est difficilement envisageable.
Alors que penser de tout cela? Eh bien, cette idée vous paraît peut-être séduisante pour les automobilistes que nous sommes, si ça nous coûte rien, mais on va en parler dans 5 minutes avec vos réactions, vos questions à Olivier Faure, porte-parole du Parti Socialiste au 39-21. Je vous attends. Les sociétés d'autoroute doivent-elles faire un effort financier? Il est midi 35 et voici Europe Midi, votre journal, avec à la une l'armée turque qui a bombardé hier soir des positions kurdes du PKK dans le sud-est de la Turquie.
C'est la première fois depuis le cessez-le-feu de mars 2013. L'opération a été menée après les émeutes de la communauté kurde qui ont fait 34 morts. Xavier Yvon, tout est en fait lié à la bataille de Kobané dans le nord de la Syrie.
Oui, une bataille pour le contrôle de cette ville syrienne qui met aux prises deux ennemis de la Turquie. D'un côté, les djihadistes qui assiègent de l'autre, les Kurdes. Ça se passe à sa porte avec le risque d'un massacre et donc des appels à intervenir. Oui, mais voilà, les plus vieux ennemis de la Turquie, ce sont d'abord les séparatistes kurdes. Le conflit avec cette minorité dure depuis 30 ans. Des négociations avaient été entamées il y a un an et demi. Avec le bombardement turc, on peut estimer qu'elles ont définitivement volé en éclats. De toute façon, Abdullah Öcalan, le chef des séparatistes kurdes de Turquie, avait fait savoir depuis sa prison que le processus de paix serait mort si Kobané tombait aux mains des djihadistes. Et c'est ce qui est en train de se passer à quelques mètres des chars turcs immobiles de l'autre côté de la frontière. Pourtant, la Turquie, on le sait, est entrée dans la coalition anti-État islamique. Elle était donc face à un choix très compliqué. Laisser faire et voir le drapeau noir djihadiste flotter à sa frontière sur une centaine de kilomètres, ou bien aider les Kurdes au risque de les renforcer dans leur volonté d'autonomie en envoyant ses avions contre les Kurdes plutôt que ses chars contre les djihadistes. Ankara montre où va sa priorité.
Xavier Yvon.
Après le Portugal samedi, un nouveau match amical ce soir pour les Bleus. Et ça se passera à Erevan contre l'Arménie, Christophe.
Oui, c'est à 18h. Les Arméniens, pas forcément très motivés, ni très en forme d'ailleurs, après leur match de qualification à l'Euro 2016, il y a trois jours, contre la Serbie, où ils avaient fait nul un partout. Ça n'en reste pas moins une rencontre à enjeu pour les Bleus, pour les remplaçants en tout cas, qui n'étaient pas alignés samedi face aux Portugais, Cyril de la Morinerie.
Oui Christophe, prenons un cas concret. André-Pierre Gignac, il n'a joué que 3 minutes face au Portugal. Comment voulez-vous en si peu de temps bousculer la hiérarchie bien établie en attaque? Un Benzema, deux Giroud même s'il est blessé, et derrière donc Gignac ou Rémy. Le meilleur buteur de Ligue 1 n'a pas le choix, il doit profiter de ce match face à l'Arménie pour montrer ses qualités. Et bien c'est la même chose pour ses autres coéquipiers remplaçants il y a 3 jours. Schneiderlin ou Cabella au milieu, qui fréquentent l'équipe de France depuis quelques mois seulement. Lucas Digne sur le côté gauche, barré par l'expérimenté Patrice Evra. Christophe Jallet à droite. Ou encore Jérémy Mathieu, 3 sélections seulement, mais titulaire au FC Barcelone. En clair, les Bleus, même en Arménie, ce n'est pas le Club Med. Le message de Didier Deschamps est très clair.
Que ce soit Portugal ou l'Arménie, c'est un match international, donc ils ont des devoirs tous. J'attends qu'il y ait une idée directrice qui soit la même sur le plan collectif. Je suis moins en attente d'automatisme, puisque pour la raison bien simple qu'ils ont peu ou pas jouer ensemble des fois, donc une implication des uns et des autres.
Voilà, et globalement, il y a aussi un autre enjeu. Les Bleus veulent poursuivre leur belle série en enchaînant un quatrième match sans défaite depuis leur élimination en quart de finale de la Coupe du Monde.
Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 à Erevan, Arménie-France, est à 18h et puis à 20h, c'est l'équipe de France Espoir qui affronte la Suède à Amstatt. C'est du très sérieux, ce sont les barrages retour de l'Euro. Il y a donc une qualification en jeu à l'aller. Les Bleuets avaient gagné 2-0.
Merci beaucoup Christophe Carré. À tout à l'heure, 13h pour l'info. Voici ce qui se passe du côté de votre ciel.
Europe Midi.
Europe Midi.
Midi 14h. Wendy Bouchard.
Vous avez entendu en direct et en public cette proposition de Ségolène Royal ce matin. Des péages gratuits le week-end ou aux heures de pointe. Moins cher de 10% pendant la semaine. Tout cela a l'air appétissant, alléchant, mais seulement réaliste. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Wendy Bouchard.
Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, vice-président du groupe à l'Assemblée et député de Seine-et-Marne. Certains parlementaires socialistes disent en ce moment que Ségolène Royal, pour exister, fait le buzz. C'est aussi ce que vous pensez ?
Bon, je crois qu'elle a eu raison de mettre sur la table un sujet que les Français connaissent bien, qui est la privatisation des autoroutes en 2006 sous Dominique de Villepin. Et donc, elles ont une véritable rente de situation aujourd'hui qui a amené l'autorité de la concurrence à dénoncer des bénéfices
annuels.
Oui, ça,
on le sait depuis un mois.
On le sait depuis un mois. Et donc ça, elle a eu raison de le remettre sur la table et de dire que le statu quo n'est pas possible. Il faut effectivement bouger. Maintenant, il y a des pistes à explorer, elle en a évoqué, et bien il faut travailler. Et travailler, ça veut dire que ce qu'elle propose ce matin n'est peut-être pas complètement abouti. Notamment sur la question de la gratuité le week-end ou aux heures de pointe, ça veut dire que, alors qu'elle est ministre de l'Environnement, alors que nous faisons une transition énergétique, on va inciter les Français à utiliser davantage leur automobile le week-end, ce qui n'est pas franchement la piste que je poursuivrais prioritairement.
Vous dites que Ségolène Royal travaille davantage, peut plus travailler et mieux faire sur ce sujet-là, mais quand Matignon dit que ce dispositif est difficilement envisageable, le dossier est clos pour vous, Olivier Faure ?
Je le disais de manière peut-être plus élégante. C'est vrai que les pistes proposées ce matin ne me semblent pas être celles qui conduiront à rééquilibrer les rapports entre l'État et les autoroutiers. Et que la question, elle doit se traiter différemment. C'est vrai que ça, du coup, n'est pas possible. On ne peut pas en rester là. On ne peut pas considérer que, des bénéfices nets de l'ordre de 20 à 24%, ce qui est... Enfin, je ne sais pas si les gens se représentent les choses, mais en fait, même les autoroutes appartiennent à des grands groupes comme Vinci ou Eiffage.
Donc, il y a un problème et il y a de l'argent à prendre.
Oui, c'est pas qu'il y a de l'argent à prendre, c'est que la négociation qui a été réalisée par Dominique de Villepin en 2006 est une négociation qui n'en était pas une. On a vendu les bijoux de famille à vil prix et on a aujourd'hui une situation qui est insupportable pour les Français qui ont déjà payé ces autoroutes.
Hein, et des contrats qui vont jusqu'en 2027 ou 2033, Olivier Faure. Alors on a besoin d'explications pour mieux comprendre justement ce phénomène et ce problème. Monsieur, bonjour en studio.
Parce que c'est vrai que, bonjour à tous, Léo d'Orléans.
Bonjour Léo.
Au niveau des autoroutes, la gratuité pour moi c'est utopique. Enfin, voilà, clairement. Moi je voulais savoir s'il n'y avait pas des possibilités justement pour voir, pour des étudiants comme moi par exemple, moi j'ai pas d'alternative au niveau du transport. Je suis obligé de prendre ma voiture et donc je passe par les autoroutes. Par contre, je paye plein pot, comme les autres automobilistes qui eux ont un salaire, ont un revenu récurrent, alors que moi, à côté de ça, je n'en ai pas. Et il n'y a pas de statut étudiant, on va dire, pour les autoroutes. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant.
Déjà une question précise.
Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai que des tarifs dits sociaux existent en matière ferroviaire, par exemple, pour l'utilisation du RER, du train, etc. On a des tarifs différenciés. Et donc, pourquoi pas, sur des cas très particuliers comme celui que vous venez d'évoquer, envisager la gratuité ou des tarifs réduits pour les étudiants, par exemple. Mais plus largement, il y a d'autres scandales qui sont... Enfin, j'ai parlé de ce scandale de la rente autoroutière, mais il y a un autre scandale dans le scandale, c'est qu'ils ont aujourd'hui la possibilité de déduire leurs intérêts d'emprunt sur le plan fiscal de manière illimitée. Ce qui est en réalité, normalement, un privilège accordé à ceux qui ont au service public. Et donc, on a là aussi matière à travailler et à faire en sorte, par exemple, que... Alors, je ne veux pas être trop technique, mais les autres sociétés qui avaient ce bénéfice-là, sur le plan fiscal, se sont vues raboter ce bénéfice en 2013 et 2014. Et donc, la moindre des choses serait, par exemple, de le faire aussi pour les autoroutes et faire en sorte que cette possibilité pour elles... cet avantage fiscal dont elles bénéficient aujourd'hui leur soit largement réduit pour qu'on puisse récupérer de l'argent pour financer quoi ? Notamment les infrastructures de transport.
Olivier Faure, les sociétés d'autoroutes doivent faire un effort financier. J'ai l'impression que vous êtes un peu tous d'accord sur le sujet. La question, c'est comment ? Ségolène Royal dit qu'il y a 20% de tarifs en trop, puisque quand une autoroute fait payer 100 euros, elle empoche 20 euros de trop perçu. Est-ce qu'on peut renégocier ces contrats de concession entre l'État et les sociétés autoroutières, c'est-à-dire casser ces contrats qui vont jusqu'en 2033 pour certains ?
Ben, on le peut, on le doit, et je crois même que depuis ce matin, le Premier ministre a rencontré les sociétés d'autoroutes, oui. Et elles sont prêtes à cette discussion. Parce qu'elles ont le sentiment, effectivement, que le rapport est tellement déséquilibré qu'elles peuvent difficilement maintenir cet état. Pour une raison qui est d'ailleurs assez simple à comprendre, c'est que, vous l'avez dit, leurs concessions s'interrompent entre la fin des années 20 et le milieu des années 30. Et donc, pour elles, si elles veulent continuer à avoir des concessions, il faut qu'elles puissent mettre un peu d'eau dans leur vin. Et donc, c'est ce moment particulier que nous devons saisir, notamment pour renégocier, amender le contrat de plan qui est en train d'être discuté avec elle.
C'est pourquoi Manuel Valls se rencontrait sur le site d'autoroute ce matin. Ce n'est pas en réaction immédiate.
Je sais bien que c'est compliqué, mais actuellement, on est en train de discuter depuis un an avec les autoroutiers pour prolonger leur concession en échange de travaux qu'elles réalisent sur un certain nombre de tronçons. Et ça veut dire que c'est 3 milliards d'euros, en gros, qui sont réinjectés dans l'économie en 2016-2017, ce qui correspond à peu près à 15 000 emplois nets, ce qui est aussi très important. Donc on doit être dans une situation...
Il y a un jeu de donnant-donnant qui peut s'établir.
Il y a un jeu donnant-donnant qui doit s'établir.
Elle est trop punitive, Ségolène Royal, à ce propos ?
Je ne sais pas si elle est trop punitive, mais en tout cas, sa formule est une formule qui ne permet pas d'aller vers des travaux... il faut préserver cette capacité à engager des travaux publics dans les prochaines années pour l'emploi, pour les transports aussi, parce que nous avons besoin de rénover, de rajouter des tronçons et même d'aller plus loin encore. Moi, je propose depuis un an déjà un plan de mobilité pour les périurbains, donc de toutes les grandes agglomérations qui ont besoin, sur le modèle de ce que font les Madrilènes, par exemple, d'avoir un grand réseau de transport, de bus sur autoroute, par exemple, qui permettent de mieux circuler en grande couronne.
N'hésitez pas à nous appeler pour interroger notre invité et mieux comprendre ce phénomène. Alors, autoroute gratuite le week-end, c'est une proposition, Ségolène Royal. Est-ce réaliste ? Nous aurons Grégory qui nous appelle à l'instant d'Ardèche, qui est chauffeur poids lourd, et puis d'autres questionnements en studio jusqu'à 13h sur ce premier sujet. À la une, à tout de suite.
Wendy Bouchard.
En direct et en public jusqu'à 13h avec Olivier Faure, porte-parole du Parti Socialiste, qui réagit à cette idée de Ségolène Royal qui, après avoir enterré, vous le savez, l'écotaxe, bien cherche des recettes ailleurs et persiste sur son idée de taxer les sociétés d'autoroutes. Elle veut baisser les tarifs des péages de 10%, instaurer par exemple une gratuité sur les autoroutes le week-end. On se demande si ce projet populaire est tentant, pour certains, est vraiment réaliste. Michel de Poitiers nous écrit sur Europe1.fr qu'il trouve cette réaction assez saine. Il y a du robot Robin des Bois chez Ségolène Royal. Au lieu de refaire payer les automobilistes, on prélève sur les sociétés d'autoroutes. Où est le problème, Olivier Faure ?
D'abord, le fait qu'il y ait des contrats négociés par Dominique de Villepin en 2006 qui rendent cette possibilité extrêmement complexe sur le plan juridique.
C'est ce que dit aussi Michel Sapin.
C'est ce que dit Michel Sapin. Parce que, bon, donc il y a une réalité qui s'impose à nous et malheureusement, on est obligé de faire affaire et de faire avec. Et donc, on a une possibilité de renégocier aujourd'hui avec les autoroutiers qui semblent disposer à cette négociation. Il faut, par exemple, aller vers une clause de partage des bénéfices. C'est-à-dire qu'à partir d'un seuil qui reste à définir, on pourrait dire que les bénéfices supérieurs à X sont partagés entre le concessionnaire et le concédant,
mais nous,
entre l'État
nous,
et les autoroutiers.
Nous, est-ce que ça va être bénéfique pour
mais
nous
bien sûr,
que les péages seront moins chers, forcément.
Mais bien sûr, parce que en réalité, la question qui est posée, c'est à la fois la question des autoroutes, mais aussi plus largement la question des transports. Et on a besoin aujourd'hui d'argent pour financer les transports. Ce sujet est revenu sur la table avec la suppression de l'écotaxe. Mais si on supprime l'écotaxe, ça veut dire qu'il va falloir quand même de l'argent pour payer les lignes de train, les RER, les bus, les tramways, etc. Comment est-ce qu'on fait ? Donc, soit on le prend dans la poche des Français, soit on le prend dans la poche des autoroutiers. Et donc, quand je parle de cette clause de partage des bénéfices, eh bien, elle pourrait permettre de financer, par exemple, une partie des investissements dans le domaine du ferroviaire ou dans le domaine de la mobilité des périurbains dont je parlais tout à l'heure.
Alors, est-ce que ce sujet est clair pour les auditeurs ? Est-ce qu'ils suivent la ligne de Ségolène Royal ou la vôtre plus raisonnée, diront certains ? Grégory nous appelle de Véras en Ardèche. Vous êtes chauffeur poids lourd. Bonjour Grégory.
Oui, bonjour Wendy, bonjour à votre invité.
Merci de nous rejoindre. Dites-nous si vous pensez que cette position de Ségolène Royal est réaliste pour vous.
Écoutez, enfin moi ça me fait sourire comme toutes les idées de Ségolène Royal déjà. Donc, parce que pour moi, déjà, c'est complètement impossible. Enfin, je ne sais pas, si elle s'est levée un matin, elle s'est dit ça, elle dit, ah bah tiens, c'est une bonne idée, je vais le proposer. Mais je viens de dire, les week-ends, c'est que est-ce que vous pensez que les sociétés d'autoroute vont vraiment dire non, 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 on ne veut pas payer?
Je ne sais pas quoi vous répondre, Grégory, parce qu'on les a toutes contactées, personne ne veut réagir. Donc, je remercie Olivier Faure de porter le sujet.
Donc, déjà ça. Et en plus, si c'est comme toutes les idées qu'elle a, comme, enfin, ou les réformes qu'elle veut mettre en place, qui ne se font pas, bon, voilà, comme ils disent, ça fait comme un petit buzz, on parle encore d'elle, mais bon, enfin, je ne sais pas si c'est positif pour elle, mais bon. Et ensuite, moi, enfin, je pense que c'est assez ridicule de faire ça. Je pense qu'il faudrait mieux, faire des réductions un peu plus importantes sur, 7 jours sur 7 de la semaine, parce qu'au moins, ça peut profiter, aux sociétés de poids lourds, aux gens qui prennent beaucoup l'autoroute la semaine pour aller travailler, etc. Parce que, forcément, donc, ça leur coûterait moins cher, les sociétés, ça leur coûterait moins cher. Et le week-end, après, j'ai envie de dire, déjà à titre personnel, même par rapport autour de moi, aux gens que je connais. Qui prend l'autoroute tous les week-ends? Je veux dire, moi, ça va me faire gagner quoi dans la nuit?
D'accord. Donc, un petit coup de com' pour vous. Ségolène Royal sur son nuage. Grégory, merci d'avoir témoigné. Nous avons Cécilia sur hashtag #1midi qui nous demande, Olivier Faure, si le problème n'est pas simplement d'être revenu sur l'écotaxe en cédant la semaine dernière aux routiers.
J'ai envie de répondre oui. C'est vrai que la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que l'écotaxe qui avait été adoptée sous Jean-Louis Borloo par l'ensemble des parlementaires de l'époque, ou quasiment, a été progressivement suspendu puis abandonné. Et donc, on a devant nous un défi qui est de financer les transports en France. Mm-hmm. Parce que,
Les
transports alternatifs. À la route. Et donc, on peut dire qu'on préférait que les gens roulent moins et prennent plus le train, mais si on n'a pas d'argent pour financer les trains, c'est impossible. Et donc, c'est vrai que si on abandonne l'écotaxe, ça suppose de trouver de l'argent ailleurs. Les autoroutes peuvent être un de ces moyens. Il n'est pas peut-être le seul, mais enfin, en tout cas, en voilà un. Et donc, moi, plutôt que d'aller vers la gratuité des transports le week-end ou aux heures de pointe, ce qui aurait pour effet d'accentuer la pollution et le nombre de gens sur les routes, je préférais que cet argent-là serve à financer les infrastructures de transport. Et donc, qu'on puisse avoir de l'argent, encore une fois, pour les RER, pour les trains, pour les tramways, pour le canal Seine-Nord, pour tous ces sujets qui sont aujourd'hui en manque de financement et qui coûtent excessivement cher.
Oui, d'autres réactions au studio, Chena, vous avez...
Oui, bonjour, Antoine de Rouen. Il y a la question effectivement des financements, mais il y a aussi la question des comportements des gens. Cet après-midi, l'Assemblée nationale va très certainement adopter le projet de loi de transition énergétique qui va fixer des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Ouais. Et d'un côté, et de l'autre côté, on supprime l'écotaxe, on va peut-être baisser les péages sur les autoroutes, on va donc encourager les gens à prendre leur voiture plutôt que les transports en commun, parce que sur des longues distances, c'est plutôt possible d'utiliser les transports en commun.
Oui, elle n'est pas cohérente, cette politique, c'est ce que vous
dites. Est-ce que d'un côté, vous n'êtes pas en train de fixer des objectifs, mais de l'autre côté, de détruire tous les outils qui vous permettraient d'accomplir ces objectifs?
Sachant que vous n'êtes pas forcément royaliste, Olivier Faure. Hein.
Je suis moins royaliste que la reine, pour l'occasion. Et donc, effectivement, je partage exactement ce que vous venez de dire. Si nous voulons être cohérents, si nous voulons donner des outils qui permettent d'aller vers la transition énergétique, ça suppose qu'on n'encourage pas le déplacement automobile et qu'on encourage au contraire les déplacements alternatifs, raison pour laquelle il faut prendre de l'argent sur les autoroutiers, mais le destiner effectivement à ces moyens alternatifs. Donc le train, le fluvial, tout ce qui peut permettre d'aller vers des transports moins polluants.
Pour faire clair, on oublie l'idée des autoroutes gratuites le week-end.
Pour faire clair, effectivement, ça me paraît pas la bonne voie.
Merci, en qualité de porte-parole d'Olivier Faure, d'être venu vous exprimer et répondre aux Français sur ces questions préoccupantes au quotidien. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant et on va recevoir un homme fier d'être français. Dites-nous si vous partagez son enthousiasme. Il s'agit du romancier engagé Alexandre Jardin. C'est bon aussi de saluer les Nobel et après, dans combien de temps on aura oublié? Il est 13h. En attendant, voici toute l'info sur Europe 1 avec Christophe Carré. Ce journal est le vôtre et vous réagissez jusqu'à 14h. C'est à vous, Christophe.
L'anesthésiste d'Orthez avoue avoir bu de la vodka le jour où une patiente est morte en marge de son accouchement. Elle est en détention provisoire depuis 2 semaines. Stéphane Place, cet anesthésiste belge, était ce matin devant la justice à Pau pour demander sa remise en liberté.
Oui, arrivé menotté entre 2 policiers, Helga Vauter s'effrayait un chemin entre les caméras, la tête dissimulée sous un blouson, avant de s'asseoir pour suivre cette audience devant débattre de son éventuelle remise en liberté, d'où le rappel des faits. C'est ainsi que l'on apprend que l'anesthésiste a reconnu avoir bu le jour même de cet accouchement. Elle était de garde, mais a expliqué au cours de ses auditions qu'il lui faut prendre de la vodka pour ne pas trembler. J'étais peut-être à 70% de mes capacités, mais à aucun moment je n'ai eu le sentiment d'être ivre. C'est ce qui ressort des déclarations que cite ce matin le président de la Chambre de l'instruction, l'avocate de la partie civile représentant le compagnon de la jeune maman décédée, maître Valentine Barnaba.
Si c'est avéré, il ne faut pas oublier qu'on est au début de l'enquête, c'est le scénario le pire qui s'est produit et en tous les cas le plus inconcevable. J'ai parlé de carnage, je considère que les conditions dans lesquelles cette intervention se sont déroulées s'apparentent à des pratiques qui relèvent du Moyen-Âge.
Plaidant la remise en liberté de l'anesthésiste belge, son avocate rappelle que sa cliente est déterminée à assumer ses responsabilités, mais qu'elle ne doit pas devenir le bouc émissaire de cette affaire. Les magistrats palois diront jeudi si Helga Wauters peut sortir de prison ou si l'anesthésiste est maintenu en détention provisoire.
Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Pau. Un coup de filet ce matin contre des négociants en or à Nancy, Metz et Dijon. Une dizaine de personnes interpellées. Elles sont soupçonnées d'avoir fraudé le fisc. François Hollande lance un appel à tous les pays concernés, au-delà de la coalition, pour aider Kobané. La ville kurde au nord de la Syrie est en passe de tomber aux mains des djihadistes. Elle est à deux pas de la frontière turque. L'UMP parle de déclaration de guerre faite aux familles. Les députés socialistes veulent moduler différemment les allocations en fonction des revenus. D'après nos informations, rien ne bougerait jusqu'aux 14 ans de l'enfance. N'est qu'ensuite que la modulation interviendrait. Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, évoque à l'instant une évolution positive vers un compromis. Le débat sera tranché dans la soirée au cours du dîner hebdomadaire entre le chef de l'État et les ténors du Parti socialiste. Manuel Valls prédit un accord rapide avec les sociétés d'autoroutes pour financer les infrastructures de transport après l'abandon de l'écotaxe pour les poids lourds. Il estime en revanche que la proposition avancée ce matin par Ségolène Royal est difficilement envisageable. La ministre de l'écologie souhaite la gratuité des péages le week-end ou aux heures de pointe et une baisse des tarifs de 10% pendant la semaine. Pierre Gattaz demande au syndicat de rouvrir le dossier des allocations chômage dès janvier. Le patron du MEDEF veut également supprimer le compte pénibilité, l'une des mesures phares de la réforme des retraites. Les entrepreneurs du BTP vont manifester cet après-midi à 15h à Paris devant l'Assemblée nationale. Ils se disent victimes des coupes budgétaires imposées par l'État aux collectivités locales. Moins de dotations, c'est moins de commandes publiques. Ils parlent d'une crise sans précédent qui pourrait faire disparaître 60 000 emplois. Un gendarme du peloton de haute montagne de Savignac-les-Ormeaux dans l'Ariège, grièvement blessé au cours d'un exercice dans les Pyrénées. L'accident s'est produit pendant un hélitreuillage. L'hélicoptère a chuté d'une trentaine de mètres avant que le pilote ne réussisse à redresser l'appareil. Au bout du filin, le militaire a frappé la paroi rocheuse à deux reprises. Jules Bianchi, dans un état désespéré, c'est ce que dit ce matin son père dans une interview à la presse italienne. Le pilote de Formule 1 est hospitalisé au Japon depuis son accident il y a 9 jours au Grand Prix de Suzuka. Il a été opéré d'un hématome au cerveau. Le foot après le Portugal samedi, c'est un nouveau match amical ce soir pour les Bleus. C'est à Erevan contre l'Arménie. Wendy, c'est à 18h.
Merci beaucoup Christophe. À tout à l'heure, 14h pour les infos. Voici le ciel. Et le ciel, Valérie Darmon, qui commence à se dégrader demain avec la pluie qui arrive par le nord-ouest, et même si ça reste très doux sur le pays.
Très doux et très calme tout de même. Oui. On est juste en automne, c'est normal. La perturbation pluvieuse gagnera dès demain matin.
J'aime votre philosophie.
Oui, zen. La façade ouest, donc, qui sera touchée demain matin par cette perturbation pluvieuse. Manche et Atlantique, elle va s'enfoncer progressivement sur une bonne moitié ouest du pays, arrosant tout le nord de la France. Demain après-midi, des pluies faibles, automnales, donc un petit peu désagréables. Par contre, on a beaucoup de soleil dans le sud-est. Et puis jeudi, sur la moitié nord, le temps qui va rester très nuageux, toujours avec quelques averses. Le sud-est toujours ensoleillé. Mmh. Mais dans l'après-midi de jeudi, cette fois, une nouvelle onde pluvieuse qui va gagner tout le sud-ouest, le Limousin et le centre.
Vendredi.
En revanche, vendredi. Voilà, on l'attendait avec impatience. Belle amélioration qui va se maintenir tout le week-end grâce au retour des hautes pressions. Il y aura juste les régions de la mer du Nord à la façade est du pays qui resteront soumises aux averses, c'est-à-dire du côté des Ardennes, de la Lorraine, de l'Alsace et de la Franche-Comté. Sinon, partout ailleurs, on aura déjà de très très belles éclaircies dès vendredi. Mmh. Et puis samedi dimanche, le soleil qui l'emporte après la dissipation des brouillards du matin, sauf peut-être de la Bretagne au nord Cotentin où les nuages seront un petit peu plus présents, accompagnés de quelques gouttes ici ou là. Mais sinon, ce sera très agréable pour nous tous et très doux.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Europe Midi, c'est votre journal avec vos questions à nos invités en studio au 39-21. Et notre débat à 13h30, faut-il respecter la féminisation de l'orthographe et jusqu'où? Vous avez en souvenir cet incident de séance la semaine passée, Madame la Présidente ou Madame le Président, un incident qui nous redonne matière à en parler. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre position? Eh bien, je vous attends nombreux pour réagir. En attendant, on va voir si vous êtes fiers, vous aussi, d'être français.
Europe Midi.
Europe Midi.
Midi 14h.
Wendy Bouchard.
Vous êtes là pour témoigner aussi d'un état d'esprit, d'une humeur, et je vous demande d'accueillir Alexandre Jardin, romancier, engagé, créateur de la plateforme Bleu Blanc Zèbre, un rassemblement citoyen d'initiatives locales qui veut redonner de la dynamique au pays. Bonjour Alexandre Jardin.
Bonjour.
Pourquoi faut-il en finir avec le France bashing? Soyons fiers d'être français, c'est le cri du cœur que vous livrez. Alors pas en forme de tribune, parce que vous voyez l'échange peut-être nourri ici. Vous aurez peut-être certains auditeurs à convaincre. En tout cas, le prix Nobel de littérature à Patrick Modiano la semaine passée, le prix Nobel d'économie hier à Jean Tirole, vous rend encore plus enthousiaste encore qu'hier, j'imagine, Alexandre Jardin.
Non.
Non ?
Non, ce qui m'enthousiasme, c'est ce que font les Français. Ce sont les initiatives que prennent les gens.
Cela aussi, quand même, non ?
Oui, Modiano, oui, mais ce qui me touche, m'émeut profondément, ce sont les initiatives que les citoyens prennent, comme ils voient bien que la France en haut est assez bloquée, partout, dans toutes nos provinces, on voit surgir des gens qui prennent en main des problèmes de société, soit avec des entreprises, soit avec des fondations ou des associations, et ils passent à l'acte, avec une efficacité redoutable, et sur la plateforme bleublanzeb.fr, on les voit revenir. On les voit arriver, on les voit proposer ce qu'ils ont inventé. Et nous, notre boulot, ça va être de les aider à étendre leurs pratiques sur l'ensemble du pays.
Tout ce maillage local, vous le voyez, parce que comme un homme politique que vous n'êtes pas, vous êtes écrivain engagé, vous sillonnez ce pays à la recherche de ces belles initiatives. Mais quand le Premier ministre, hier, sur Twitter, s'exclame « Quel pied de nez au French bashing que ces prix Nobel !» Qu'est-ce que vous dites, Alexandre Jardin ?
Je me dis que je me fous de ce qui se passe en haut.
Oui.
Ce qui m'intéresse véritablement, c'est là où il y a de l'énergie réelle. Tout le monde sait très très bien.
La France d'en bas et du
centre.
Oui,
voilà. Oui, mais c'est là que ça se passe en réalité. Les autres ZEB m'ont rejoint, pas parce que je suis romancier, mais parce que je suis le cofondateur de Lire et faire lire. Lire et faire lire, c'est quoi ? C'est 16 000 retraités bénévoles qui vont transmettre le plaisir de la lecture dans les écoles de leur quartier, de leur commune. On s'occupe de 400 000 enfants. On est beaucoup plus efficace qu'une loi votée au Parlement. Parce qu'on le fait, nous-mêmes, nous citoyens, on passe à l'acte. Et c'est ça qu'il fallait fédérer, rassembler. Et on passe des accords avec des mairies aujourd'hui. Je serai dimanche au congrès des maires ruraux pour implanter Lire et faire lire et un autre zèbre, un truc génial. Un type qui a monté une maison d'édition qui vend des livres jeunesse à 80 centimes, hors marché des
livres. Et le cheminement pour cette gloire française, il va jusqu'où ? Jusqu'en 2017, l'objectif, c'est la présidentielle, c'est redonner envie aux Français de voter, de s'intéresser à la politique, Alexandre Jardin ?
Non, c'est qu'on ait nous-mêmes fait redémarrer le pays.
Oui.
On a 24 mois. On a 24 mois pour essayer de passer d'un pays de spectateurs à un pays d'acteurs.
Alors, ils sont là, les acteurs ou spectateurs, et ils vous interrogent aussi. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez la position d'Alexandre Jardin.
Bon, moi, je pense que vous avez raison, parce qu'il faut arrêter cette sinistrose. En fait, le français, bon, ce serait comme un individu qui dit « je suis malade », alors qu'il est en bonne santé, et que d'un seul coup, bah, forcément, il devient malade. À force de dire « on va pas s'en sortir », bon, ça, c'est dans la tête. Il faut y penser, il faut prendre une voie, il faut se dire « bon, celle-là, j'ai pas réussi, c'est peut-être que ça me convient pas, je vais aller ailleurs ». Et à partir de là, on peut réussir. Moi, c'est le message que je donne aux jeunes. Et puis alors surtout, de fuir tous ces gens qui disent « c'est bloqué, c'est foutu, vous n'y arriverez pas, partez à l'étranger ».
Oui, c'est vrai ce que vous dites, madame. Ouais, Alexandre Jardin vous répond.
Alors, moi, ça fait des années que je rêve d'aller vivre au Québec. J'ai repoussé ça jusqu'à ce qu'on ait fait redémarrer le pays. Parce que j'aurais la sensation de fuir en ce moment. Agir, passer à l'acte. La semaine dernière, on avait une réunion avec un de nos ZEB qui s'appelle SNC, Solidarité Nouvelle contre le chômage. C'est une association qui fait du tutorat entre salariés et chômeurs. Vous pouvez agir. Allez sur notre site, prenez contact avec eux, agissez. Ne restez pas à écouter la radio en espérant que le gouvernement...
Vous avez l'air de dire, Alexandre Jardin, que les médias aussi sont responsables de, par exemple, un sondage qu'on relaie, et je m'en fais encore l'écho aujourd'hui. L'année passée, 72% des Français jugent que la France est en déclin. Cette théorie décliniste, comment on va faire pour l'endiguer, pour l'enrayer ? On va sur le terrain, très bien, c'est formidable ce que vous faites, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, si on n'est pas adhérent à votre mouvement, par exemple ?
Mais vous allez sur la plateforme, il y a 80 programmes. Il y en a
c'est
bien
un
qui va vous...
Hein, vous avez vu
qui... Non, mais...
Citoyen.
Je suis candidat à rien.
Je sais.
Moi, j'écris des romans. Ma vie est une vie de romancier. Mais simplement, force est de constater que le pays est absolument en panne. Et si on compte absolument sur nos partis traditionnels pour faire redémarrer la joie en France, on est totalement fou. Donc il faut bien qu'on se rassemble et qu'on utilise nos compétences. Je serai à Vénissieux à la fin de la semaine. On va aller chercher des zèbres, c'est-à-dire des gens qui localement...
Pourquoi des zèbres ? Pourquoi vous les appelez les zèbres ?
Parce que ce sont des gens qui résonnent hors cadre. Ils sont bizarres.
Ça, c'est bien. Alors, d'autres Français vous interrogent, Alexandre Jardin, sur cette fierté d'être Français en regardant cette France d'en bas, du centre, qui travaille et qui se donne les moyens d'y croire.
Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Après, moi, ce que je pense qu'il me manque dans les médias, le seul truc, c'est un peu, je sais pas comment dire, un peu French pushing. C'est-à-dire qu'on se rend pas assez compte des initiatives, des petites initiatives qu'il y a en France. Il y a peu de gens qui essaient de pousser et ils veulent montrer ce qui se passe, à part l'audace, qui est un peu le seul truc qui veut pousser les choses.
La presse régionale fait.
Oui. La presse régionale, il y a les journées de Bervillers dont on parle pas assez souvent, qui sont super. C'est-à-dire que tous les ans, il y a des...
Cette petite du média positif, c'est ce que vous voulez.
Qui se retrouvent tous les ans, ils font les travaux locaux.
Écoutez, Europe 1 le fait aujourd'hui.
Choses comme ça. Et on n'en parle jamais dans vos médias. Oui. Jamais. Enfin, après, ça arrive, mais c'est trop régional et ça reste assez peu relayé.
Oui, mais c'est aussi un levier d'action, Alexandre Jardin, que ce que dit monsieur en studio.
Oui, mais on peut le déplorer. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, le seul verbe important maintenant, compte tenu de l'état du pays, c'est faire. Faire. Nous, individuellement, est-ce qu'on reste à gémir ? Ou est-ce qu'on passe réellement à l'acte dans sa commune ? Mais pour ça, il faut des outils. Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui se disent « Ok, moi, je veux bien faire quelque chose. Mais quoi ? Qu'est-ce qui est à ma portée là où je vis ? Quel programme existe ? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ? Dans ma commune, en fait. » Et c'est pour ça qu'on a commencé à fédérer ces gens. Ces faiseux. On appelle ça des faiseux. Pas des diseux. Parce que force est de constater que jusqu'à présent, la société civile a toujours été instrumentalisée par les politiques. Tout le monde le sait, plus ou moins. Or, à un moment, il faut qu'on devienne un peuple adulte. Et nous, on a commencé par rassembler les faiseux. Ensuite, au mois de mai, on a lancé un appel aux maires, parce que ce sont des faiseux, localement. Ils ont des problèmes très concrets pour qu'ils utilisent les outils des citoyens. Et lundi prochain, on va lancer un appel aux Français sur bleublanzeb.fr. pour qu'ils viennent signer, pour qu'ils soutiennent une démarche de gens responsables, de gens qui ont la passion du pays.
Et vous le dites, il faut agir en 24 mois, Alexandre Jardin, sans quoi, par exemple, vous, l'initiative, vous partirez vous installer au Québec.
Non.
Et vous...
Non, non. D'abord, on fait redémarrer et ensuite, au Québec.
Oui, d'accord. Si ça marche pas, vous partez au Québec. J'ai bien compris. C'est là où se situe.
Non, quoi qu'il arrive, on fait redémarrer le pays.
L'intrigue de votre nouveau roman. Nous avons Étienne qui nous appelle du Val d'Oise au 3921. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous entendez la position d'Alexandre Jardin qui veut revenir à la base, comme ça aller chercher dans le tissu local, associatif aussi, tout ce qui se fait de bien en France, et qui est fier d'être français. Qu'en pensez-vous, vous ? Vous avez 24 ans.
Bah, bien sûr, moi je suis assez d'accord avec monsieur, mais je pense que c'est aussi au pouvoir public de véhiculer une image positive du pays. On a beaucoup d'atouts, il faut les mettre en avant. Est-ce que les deux prix Nobel peuvent changer notre image auprès des pays étrangers et apporter plus de force au rayonnement culturel de la France ? Ou est-ce que ce sont des prix simplement poussiéreux et qui n'ont tellement de valeur ?
Alexandre Jardin.
Bien sûr qu'on est content lorsqu'il y a des prix Nobel. Mais...
On va les oublier la semaine prochaine.
Oui, voilà.
Ouais,
voilà.
C'est comme les médailles au JO.
Non, mais ce sont des cas individuels. Ce qui m'intéresse, c'est l'énergie globale d'un pays. À lire et faire lire, on n'est pas deux, on est 16 000. En ce moment, rejoignent d'énormes mouvements associatifs, rejoignent les Zèbres, la Ligue de l'enseignement. J'ai été discuté avec les gens de Léo Lagrange, etc. On est en train de faire un mouvement de masse.
Oui, mais vous ne nous dites pas la fierté quand même sur le prix Nobel. Vous dites, bon, on a l'impression que vous balayez ça d'un revers de main comme si ce n'était pas important. Sur la grandeur de la France,
mais ce qui se passe au niveau des élites est finalement moins important. C'est vraiment ce qui se passe dans la réalité de la vie qui est fondamental. Est-ce qu'on revitalise un pays par en bas, c'est-à-dire pas avec j'emploie un mot fort, avec le génie des gens. La semaine dernière, j'ai été voir des gens qui vont rejoindre les Zèbres.
Oui, mais qu'est-ce que ça change sur notre niveau d'éducation ? On est à la traîne.
Mais ça change tout. Ça change tout. Si on réussit à faire une nation de lecteurs avec nos retraités, on va le faire et on en sera fiers collectivement, nous les Français. Ça change tout que ça vienne du bas. D'abord, c'est joyeux. Alors que tous les systèmes institutionnels sont toujours un peu dépressifs, quoi. Parce que ça marche pas trop, parce que ça merdouille. Moi, je suis très frappé de voir que les faiseux en France, ils ont la banane. Je veux dire, parce qu'il passe
et
à l'acte.
Vous aussi, visiblement.
Et vous aussi.
Et vous, ça fait plaisir de vous recevoir. Et alors, juste une fois, voilà votre roman que vous avez publié il y a quelques
jours.
Qui se passe au Québec et qui a été publié au Québec avant sa sortie en France. Ça, c'est de la provoque, non?
Oui, mais je voulais leur rendre hommage. Et puis rapporter en France, dans ce roman, l'optimisme, la joie de vivre de ces gens.
Merci.
Leur manière de s'aimer, de manière... ils osent.
Et Bleu Blanc Zèbre, la plateforme d'Alexandre Jardin, pour vous mobiliser. Merci beaucoup Alexandre. Et on se retrouve dans un instant pour ces opérations sous hypnose ahurissantes. Comment ça marche? On vous dit tout.
Pour poser vos questions sur l'actualité,
39-21, 34 centimes la minute.
Et sur europe1.fr.
Wendy Bouchard.
En direct, en public, vous avez été très nombreux depuis ce matin à réagir à notre sujet sur les opérations d'enfants sous hypnose. Voilà pourquoi on a décidé de prendre un peu de temps pour vous expliquer tout cela. Comment on parvient à opérer sous hypnose? Comment la mise sous hypnose, que vous y croyez ou non, permet d'ôter la douleur comme si on vous administrait un sédatif? Ça paraît incroyable. Mais on peut être opéré aujourd'hui sans anesthésie, qu'on soit adulte. Ça se diffuse maintenant chez les enfants, vous l'avez entendu, notamment à l'hôpital Trousseau à Paris. Bonjour Jean-Marc Benayem.
Bonjour.
Merci de votre présence. Vous êtes hypnothérapeute, praticien hospitalier au centre de traitement de la douleur à Ambroise-Paré. Vous avez passé ce diplôme universitaire il y a quasiment 15 ans. On a envie d'abord d'entrer dans votre mental et de comprendre comment vous expliquez aux patients que vous allez sortir le bistouri, mais que ces patients-là ne vont rien sentir pendant cette opération.
Alors, on s'y prend d'une manière assez simple. Si on sent que, surtout avec des enfants qu'ils ont envie plutôt d'être ailleurs parce que le bloc les inquiète, oui. L'opération, ils voient le matériel, ils entendent les infirmières. Alors, on leur propose, est-ce que tu voudrais pas par hasard faire du ski? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et si tu étais en vacances, tu serais où? Au bord de la mer? Et une fois qu'on a le sujet, on propose donc un nouveau contexte à la personne. L'ancien contexte pouvait être angoissant. Je vois le bloc, je vois le sialytique, je vois le bistouri, je sens les produits, les médicaments. Le nouveau contexte est un contexte où je vais jouer. C'est-à-dire qu'il y a une capacité presque à être là et ailleurs. Et la personne se met dans ce nouveau contexte où elle fait du ski, par exemple. Et dans ce nouveau contexte, c'est quoi? C'est le jeu, c'est le plaisir, c'est tous les souvenirs. Et elle s'absorbe tellement dans ce nouvel espace, si je puis dire, que ce n'est pas le monde de la douleur.
Très bien, voilà, je vous suis. Ça veut dire que, très bien, vous avez plongé dans un autre état, ce patient-là. Et là, vous ouvrez l'abdomen, sans anesthésiant.
Alors, ce sont l'anesthésie, si je puis dire, ou l'analgésie hypnotique est une analgésie qui se fait essentiellement pour le local, c'est-à-dire l'anesthésie loco-régionale. Pour les anesthésies générales, on continue à faire de l'hypnose et des médicaments, et on va faire de l'hypnose surtout en pré-opératoire et en post-opératoire de façon à éviter les séquelles traumatiques douloureuses. Mais l'hypnose ne vient pas concurrencer l'anesthésie générale. Elle vient à s'ajouter à l'anesthésie loco-régionale de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de douleurs, qu'il n'y ait pas trop de médicaments.
Mais ça pourrait venir? Ça va venir pour ceux qui ont une peur farouche, par exemple, de l'anesthésie générale. Est-ce qu'on pourra un jour, dans quelques années, opérer totalement sous hypnose?
Vraiment, il vaut mieux traiter la phobie par l'hypnose. Oui. On va traiter la phobie de la personne qui a peur de l'opération parce qu'elle a de bonnes raisons d'avoir peur. Mais on ne va pas essayer de concurrencer. Les progrès en anesthésie générale sont parfaits. Les médicaments sont au point. L'idéal, c'est de garder cette anesthésie générale avec moins de médicaments quand c'est possible et d'utiliser l'hypnose pour calmer la peur, l'anxiété, les syndromes traumatiques.
C'est l'hypnothérapeute qui nous parle et vous avez cette voix justement apaisante, praticien hospitalier à Ambroise-Paré, Jean-Marc Benayem. Des questions pour mieux comprendre comment ça marche l'opération sous hypnose.
Bonjour. Oui, bonjour Antoine Rouen. Si j'ai bien compris, donc aujourd'hui, ça vient en complément des techniques habituelles, essentiellement en complément d'anesthésie locale pour éviter le stress, etc. Mais on sait qu'il y a aussi des personnes qui sont allergiques aux anesthésiants. Est-ce que dans un avenir proche ou lointain, on peut imaginer que ces personnes-là puissent bénéficier de l'hypnose pour leurs opérations?
Alors non, vraiment pas. Ce qu'on a remarqué, c'est que si on s'intéresse à la personne, qu'on ne la traite pas comme un objet de plus dans le bloc opératoire, mais comme une personne qui existe, alors on va vers elle. Le fait d'aller vers elle, de lui parler, de lui dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» et la personne dit « là, je ne peux plus, j'ai très très peur », ou bien l'inverse, « non, ça va, je suis tranquille ». Et à ce moment-là, allant vers la personne, on peut lui proposer un nouveau contexte. « Ah, tu préférerais jouer avec, dans le jardin ?»« Ah oui, oui, ça, ça me plaît beaucoup ». Et ce nouveau contexte permet de réduire de manière impressionnante la douleur. C'est vrai que beaucoup de patients disent quoi, c'est déjà fini, mais on n'est pas en concurrence avec l'anesthésie générale.
On ne pourrait pas la remplacer. Donc.
Oui. Non, impossible de remplacer. Ce ne sont que des opérations, mais qui sont quand même nombreuses. Des liftings, des plasties mammaires, des opérations de la thyroïde, des fibroscopies, des célioscopies. C'est quand même déjà considérable.
Sûr,
des vésicules biliaires, des coloscopies.
Chez les adultes que chez les enfants?
Alors, ça marche beaucoup mieux, si on peut dire, chez les enfants, parce que ils ont un imaginaire très développé, alors que les adultes commencent à bloquer un peu. Ah, ils posent des conditions, alors que l'enfant, il joue, il est beaucoup plus souple que l'adulte qui est un peu plus rigide.
Sophie sur Europe1.fr nous dit, ça veut donc dire qu'il existe aujourd'hui un diplôme universitaire d'anesthésiste hypnotiseur, oui. Êtes-vous pris au sérieux, vous demande-t-elle?
Eh bien, oui. C'est-à-dire que peut-être pas quand on a commencé il y a une trentaine d'années, moyennement, mais comme l'hypnose est un héritage français, et ça n'est pas exotique, ça n'est pas quelque chose de curieux qui nous vient d'Extrême-Orient, c'est français, c'est européen. Alors, on accorde le grand Charcot s'y intéressait à Salpêtrière, le grand neurologue Charcot. Alors, il y a de plus en plus une grande bienveillance et énormément de demandes de formation qui montrent que ça y est, ça vient dans le champ de la médecine.
Vous faites le lien avec le sujet précédent, la fierté d'être français à ce sujet-là. À Rennes, un patient est opéré chaque jour sous hypnose. Ça se passe évidemment aussi à Angers, à Robert Debré à Paris, à Saint-Joseph à Paris. Une autre question pour terminer, monsieur?
Oui, voilà, Vincent d'Orléans. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me rassurer, pour pouvoir avoir envie d'être hypnotisé avant une opération? Parce que moi, je suis pas du tout rassuré.
Ça vous fait peur pour l'instant?
Ouais, voilà, c'est
plutôt le contraire.
Parce qu'on n'a pas assez de recul sur la chose.
Ouais, Jean-Marc Menayem, pour terminer.
Ouais, c'est difficile parce que nous devrions avoir un entretien plus prolongé, pour savoir exactement où est-ce que vous bloquez, où est-ce que la peur se trouve. Mais je me souviens d'une patiente, voilà, anecdotiquement, qui avait posé la même question. Et puis, sa sœur était à côté et lui avait dit « Bon, ben alors, tant pis, tu restes malade ». Et à ce moment-là, elle a réagi en disant « Bon, ok, on y va ». C'est la sœur qui l'a guérie.
Bon, bah, je vais vous laisser quelques minutes pour convaincre le jeune homme dans un instant. Merci en tout cas à Jean-Marc Benayem pour cette exploration.
Merci à vous.
Opération sous hypnose. Dans un instant, le débat d'Europe Midi. Faut-il respecter la féminisation de l'orthographe et jusqu'où? Face à face, Caroline Dehaze, Guillaume Perrault, et vous prenez parti au 39-21. A tout de suite.
Europe Midi.
En direct et en public, voici le débat d'Europe Midi et merci d'y participer en studio au 39-21. On se demande ensemble s'il faut respecter à tout prix la féminisation de l'orthographe. Est-ce nécessaire ou absurde? On peut rebondir sur l'actualité puisqu'on en parlait avec Alexandre Jardin dans un instant. Si Patrick Modiano avait été une femme, qu'aurait-on dit? Une prix Nobel? Jeudi dernier, moi je dois vous dire que j'étais par exemple au salon de l'auto, que j'ai rencontré une jeune femme qui est mécanicienne. Je l'ai appelée carrossière, mais elle m'a dit non, on est moins de 1% en France, donc on dit je suis carrossier. Bon, très bien, voilà. Alors il y a beaucoup d'exemples comme ça dans votre vie quotidienne et on se demande s'il faut se jouer des conventions féminin, masculin ou respecter au contraire ses obligations lorsqu'elles procèdent d'une instruction. Depuis 1998, c'est clair, un texte rend obligatoire la féminisation lexicale des fonctions exercées par les parlementaires, femmes, députées, présidentes de commissions, de groupes, de séances. Voilà pourquoi le député UMP Julien Aubert a été puni pour ne pas avoir dit Madame la Présidente à Sandrine Mastier. C'était la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Alors que vous inspire ce débat? Nous mettons face à face aujourd'hui Caroline Dehaze, militante féministe, fondatrice d'Oser le féminisme, à l'origine du site macholand.fr, une plateforme lancée aujourd'hui qui appelle les internautes à épingler les dérapages sexistes d'ailleurs dans tous les états de la société. Et Guillaume Perrault, journaliste, grand reporter au Figaro et au Figaro Vox. Merci de votre présence à tous les deux. On va lancer le débat très vite parce que j'ai aussi envie de vous entendre argumenter et d'entendre les arguments des auditeurs. Bonjour Caroline Dehaze.
Bonjour.
Et bonjour Guillaume Perrault.
Bonjour.
Une minute chacun d'ailleurs pour nous dire pourquoi il faut respecter ou pas la féminisation de l'orthographe. On commence avec vous, Caroline Dehaze, fervente militante féministe.
La féminisation des termes, c'est avant tout la volonté de rendre visibles les femmes. Les femmes constituent 51% de la population. Il y a un truc bizarre qui se passe dans nos sociétés, c'est que dès qu'on commence à monter les échelons des médias, de la culture, du monde politique, du monde économique, elles ont tendance à disparaître de la photo. Le nombre de plateformes où il y a 100% d'hommes à la tribune ne cesse de se démultiplier encore en 2014. Et donc féminiser les termes, c'est simplement dire les femmes constituent la moitié de l'humanité, elles ont toute leur part dans la vie politique, sociale, économique, et dire directrice au lieu de directeur, présidente au lieu de président quand on parle d'une femme, c'est rendre visible leur rôle dans la société. Et donc je pense c'est aussi agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Merci Caroline Dehaas, voilà les choses clairement dites, clairement reçues je pense par Guillaume Perrault qui ne pense pas du tout la même chose. Allez-y Guillaume.
L'État n'a pas à obliger les personnes à utiliser telle ou telle formule plutôt que de telle autre. Ce n'est pas le rôle de l'État d'intervenir dans le choix du vocabulaire et dans le lexique. C'est à l'Académie française. À partir de ce moment-là, chacun est libre d'employer les mots qu'il souhaite pour se désigner soi-même. Mais par contre, on ne peut pas contraindre quelqu'un à dire « Madame la Présidente », homme ou femme, s'il souhaite dire « Madame le Président ». Parce qu'en français, c'est parfaitement correct. Et vouloir contraindre les gens à dire « Madame la Présidente », pourquoi est-ce que c'est pas seulement anecdotique, pourquoi est-ce que c'est grave selon moi ? Parce que ça porte atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. C'est-à-dire que ce qui est en jeu derrière, c'est la liberté de formuler librement sa pensée sur des questions de société. C'est pour ça que ce qui s'est passé à l'Assemblée n'est pas seulement anecdotique.
Merci, voilà le débat posé. Je dois vous dire que Julien Aubert, le député contrevenant, s'estime aujourd'hui victime d'une novlangue idéologisée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Caroline Dehaas ? Il dit justement qu'on utilise, mais c'est ce que vous mettez en avant, qu'on utilise ce langage pour féminiser à outrance la fausse société.
Mais le langage, il n'est pas neutre. Le langage, il a toujours été utilisé dans nos sociétés pour à la fois parfois expliquer la société, mais surtout être le reflet de cette société. Pourquoi est-ce que le masculin l'emporte dans la grammaire française ? C'est pas depuis la nuit des temps que le masculin l'emporte. Il y a une époque pas si lointaine où on disait « les femmes et les hommes sont beaux, mais les hommes et les femmes sont belles ». Parce que c'était la règle de la proximité, le terme le plus proche de l'adjectif qualifiait l'adjectif. Bon, ça a changé ça. Ça a changé pourquoi ? Ça a changé au moment de la monarchie absolue en France. Et donc la grammaire, la façon de formuler les choses s'est adaptée à la société qui consacrait l'homme comme étant celui qui héritait et qui pouvait être roi suite à son père. Et donc pourquoi est-ce que la grammaire, elle évoluerait pas en fonction de la société ? On n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus sous l'Ancien Régime. On est aujourd'hui dans une société où on essaye toutes et tous de construire l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc la grammaire, la façon de parler, elle reflète aussi ça.
C'est ça qui vous gêne ? Il y a une police des mots aujourd'hui, Guillaume
Perrault ? Ah oui, absolument. Il y a une police des mots. Vous savez, il n'y a pas de genre neutre en français. Donc il y a des mots féminins qui désignent des hommes et il y a des mots masculins qui désignent en effet des fonctions exercées par les femmes. Exemple. Si vous me dites, Wendy, que je suis une plume du Figaro, vous serez très aimable avec moi. Je ne me sentirai pas outragé, je ne me sentirai pas indigné, je ne réclamerai pas une sanction contre vous. Si vous dites d'un homme qu'il est la partie civile dans un procès, vous aurez raison, on désigne un homme qui est partie civile.
Non, mais avec... si vous étiez président de l'Assemblée nationale, est-ce que j'aurais le droit, puisque ma liberté d'opinion et d'expression est là, de vous appeler Madame la Présidente ?
Alors, vous seriez en droit de le faire si vous le souhaitiez. Je trouverais ça un peu ridicule. Mais la grande différence entre moi et Sandrine Mastier, c'est que si vous m'appelez Madame, Monsieur la Présidente, je ne réclamerai pas une sanction contre vous. C'est ça toute la différence. C'est qu'on veut imposer un dogme. On veut imposer un dogme en appelant les gendarmes et les juges à la rescousse. Et là, je dis stop, liberté.
Que Julien Aubert, chez lui, dans la rue, peu importe, dise Madame le Président, Madame la Présidente ou ce qu'il lui chante, peu importe. L'État ne règle en effet pas la façon dont les gens s'expriment individuellement dans la vie courante.
Ah bah il est pénalisé.
Là, on parle de l'Assemblée nationale. Oui. Si Julien Aubert, demain, pose une question à Claude Bartolome et lui dit « Cher Claude, comment ça va ?» à la tribune de l'Assemblée nationale, il sera sanctionné. Parce qu'il y a des règles à l'Assemblée nationale. On ne s'adresse pas au président de l'Assemblée nationale en disant mon cher Claude,
mais
comment ça va ?
Vous savez très bien que Sandrine Mastier, par exemple, elle voulait débaptiser l'école maternelle parce qu'elle jugeait qu'on stigmatisait trop le côté maternant de l'école en appelant petite école. Donc elle a aussi un engagement comme
bien
le vôtre, Caroline Dehaas.
Mais comme par exemple, à l'école, vous avez toutes et tous entendu attendez, c'est bientôt l'heure des mamans. L'heure des mamans. Donc il y a 20 enfants, assis 25, 30 parfois même dans les classes, enfants de 3 ans, qui entendent qu'à 16h30, c'est le boulot des mamans de venir chercher les enfants.
D'accord? L'autre jour, dans la crèche dans laquelle j'étais, par hasard, un petit garçon.
Alors là, on bascule un peu dans la théorie du langage, genre, qui va faire du
langage. Un petit garçon pose sa main sur une petite fille. Ils avaient 6 mois. Hein. La petite fille se met à pleurer. La personne qui était à côté des enfants dit, voyons, Clément, ce n'est pas comme ça qu'on parle aux filles. Ça veut dire que dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants qu'il y a des langages différents pour s'adresser aux filles et aux garçons. Moi, je pense que le langage doit s'adresser à tous de la même manière.
Au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la féminisation des noms et des fonctions. Et sur ce qui est arrivé à Julien Aubert, c'est grave parce que le règlement de l'Assemblée a été détourné de son objet et c'est un abus de pouvoir qui a été commis par Sandrine Mastier. Pourquoi ? Parce que en tant que présidente de l'Assemblée en exercice, elle était là pour assurer le bon déroulement des débats, c'est-à-dire veiller à ce que certains n'interrompent pas les autres, ne cassent pas la figure. C'est arrivé dans notre histoire parlementaire. Ça sert à ça, le pouvoir de police de l'Assemblée nationale.
Elle en a fait un instrument idéologique.
Elle en a fait un instrument idéologique pour mater un adversaire. Et ça, c'est grave à l'Assemblée nationale.
Alors, est-ce que ça se retourne contre les femmes ou est-ce qu'au contraire, ça porte la bonne cause ? Eh bien, vous nous dites ce que vous en pensez au 39-21 dans un petit instant. Nous mettons face à face, vous l'entendez, Caroline de Haas, militante féministe, et Guillaume Perrault, journaliste, grand reporter au Figaro. Nous avons Marie qui veut d'ores et déjà intervenir. Elle nous appelle de Caen. Et des réactions dans le studio d'Europe 1 en direct. À tout de suite.
Europe 1. Europe Midi.
En direct, en public, jusqu'à 14h. Faut-il respecter à tout prix la féminisation de l'orthographe ? Nous mettons face à face Caroline de Haas, militante féministe, pour qui la moitié de l'humanité étant conjuguée au féminin, eh bien, il est normal qu'on représente aussi ses fonctions, qu'on les rende visibles et qu'on appelle Madame la Directrice, Madame la Directrice, ou Madame la Présidente, Madame la Présidente. Pour Guillaume Perrault, l'État n'a pas à intervenir dans le choix du lexique, du vocabulaire, tout cela. C'est à l'Académie française de le faire et ça porte même un coup à notre liberté d'opinion, à notre liberté d'expression. Nous avons Quentin qui nous dit en quoi dire Madame le Président est une injure à la femme. Madame de Haas, répondez à Quentin.
Mais c'est pas une injure, c'est juste un contresens. Sandrine Mastier n'est pas président de séance au moment où elle s'exprime, au moment où Julien Aubert l'interpelle. Mmh. Elle est présidente, c'est juste ça. Et donc c'est pas une insulte, comme c'est pas une insulte d'appeler quelqu'un présidente s'il est président.
Donc c'est anecdotique.
C'est pas anecdotique, c'est simplement révéler la réalité de la place des femmes dans la société. Et je trouve ça assez intéressant ce débat autour de l'anecdotique parce que on nous le renvoie quand même assez régulièrement. Mmh. Vous voulez pas franchement vous occuper des débats sérieux, genre l'égalité professionnelle, les violences, qui seraient des sujets sérieux, c'est vrai, oui. Et que le langage serait un sujet pas sérieux, comme si c'était pas lié. Comme si le fait qu'aujourd'hui, il y a encore 30% des entreprises en France qui aient 0% de femmes dans leur COMEX,
oui.
C'était pas lié au fait qu'on dit rarement chef d'entreprise.
Qui fait ou qui dit que c'est lié, ben on va le voir avec vous, justement, nos débatteurs. Nous avons Marie qui nous appelle de Calvados. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et merci de participer à ce débat. On vous écoute. Je ne sais pas si vous avez déjà une position à afficher.
Je trouve pas que ce soit absurde. Je trouve que franchement, il y a des combats beaucoup plus intelligents. Moi, je suis une femme, je suis heureuse de l'être, je n'ai pas à le revendiquer pour autant. Et en fait, j'ai été éduquée avec une phrase que ma maman m'a souvent racontée, c'est qu'une femme est à tout point égale à l'homme. Il y a une chose qu'on peut faire que les hommes ne feront jamais, c'est donner la vie. Et voilà, moi c'est tout, je ne vais pas chipoter sur des mots, la présidente, le sage-femme ou alors le sage-homme pendant qu'on y est. Je pense que chacun trouve sa place dans la société. Les personnes qui ont ce combat, bah tant mieux, s'ils ont envie de se battre pour ça, allez-y.
Oui.
Et c'est que pour moi, ils n'ont pas du tout trouvé leur place en tant que femme ou en tant qu'homme dans la société. Voilà.
Alors vous dites, oui, vous dites on fait ce qu'on veut, on s'accommode un peu comme on veut, à vous entendre Marie, finalement, c'est ça ?
Oui, on s'accommode comme on veut. Pourquoi revendiquer je suis catholique pratiquante, je sais qu'il y a des femmes dans la paroisse qui en aura le bol que les femmes n'aient pas leur place. Ben, si on a notre place différemment, et si on est différente, c'est qu'il y a une raison, et qu'on doit maintenant prendre nos places différemment, sans pour autant revendiquer en permanence des termes.
D'accord.
Des termes derrière, voilà.
Et ben merci beaucoup Marie pour votre position affichée. Vous voulez répondre Guillaume Perrault et puis Caroline parce que c'est à votre rencontre un petit peu aujourd'hui Guillaume Perrault.
Oui, ce qui me paraît important, comme l'a dit cette dame, c'est qu'en démocratie, il n'y a pas de vérité révélée. Il n'y a pas de dogme. Et moi, ce qui me heurte, c'est la tendance aujourd'hui à vouloir se présenter à tout prix en victime outragée en disant « ce que vous dites là, monsieur, aujourd'hui, me choque, me blesse, et donc je vous ordonne de le retirer et je vais appeler la loi et l'État à mon secours pour sanctionner quelque chose que je désapprouve. » Tous les jours, personnellement...
Il y a une instruction qui existe quand même hein, dans les faits, Guillaume Perrault, 1998.
Wendy, tous les jours, j'entends des choses qui me heurtent, personnellement, dans mes convictions les plus intimes. Il ne me viendrait jamais à l'idée d'aller saisir la justice ou l'État pour faire taire des gens avec qui ne sont pas d'accord avec moi.
Et c'est la sanction qui vous embête ou c'est le...
Ce qui m'embête, c'est qu'on oublie que la liberté d'expression, elle protège celui qui parle, pas celui qui écoute. C'est toute la différence.
Caroline Dehaas, quelle vous répond ?
Oui, je voudrais juste rappeler à l'auditrice, enfin peut-être informer, je ne sais pas si elle avait suivi les débats parlementaires au moment de la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui a été votée définitivement cet été. Cette loi, elle parle des violences faites aux femmes. Elle parle des 27% de salaire que les femmes touchent en moins. Julien Aubert n'était pas sur les rangs de l'Assemblée au moment de la discussion autour de ce projet de loi. Alors, ce que je trouve assez bizarre, c'est qu'on mette en contradiction cette question de la lutte contre les violences, de l'égalité professionnelle, qui sont évidemment des sujets fondamentaux, et cette question de la féminisation des termes, comme si on pouvait faire que l'un ou que l'autre. Bah, les deux sont faites.
D'accord.
Il y a des lois sur les violences
mais regardez,
qui ne sont pas votées.
Oui.
Par les députés UMP en tout cas. Et puis il y a des lois, il y a des discussions, il y a des circulaires, il y a des règlements qui rendent visibles les femmes.
Si on veut dépolitiser tout ça, Elodie sur Twitter, hashtag un midi nous dit « Parlons français, une fonction est neutre, on désigne une fonction et non pas une personne et donc pas un genre, Caroline Dehaas. »
Mais ça c'est le cas depuis que la grammaire a défini que le masculin l'emportait. Mais c'est pas tout à fait vrai, c'est pas vrai depuis la nuit des temps. Et pourquoi est-ce que d'abord ça ne changerait pas ? Pourquoi est-ce que, vous imaginez si on élit une présidente de la République, on dira « Madame le président » On ne rendra pas visible le fait que c'est une femme qui a accédé à cette fonction la plus importante de notre République. Mmh. Donc, moi, là où je veux juste répondre à l'auditrice de tout à l'heure, c'est lui dire on ne pourra pas lutter contre les violences faites aux femmes, contre l'égalité professionnelle, sans aussi instaurer l'égalité dans la façon dont nous parlons. L'égalité, elle ne se prend pas par un petit bout de la lurette. On ne peut pas faire l'égalité juste sur les violences, l'égalité professionnelle.
Le vocabulaire et l'orthographe, ça vous sert aussi de manette
à faire l'égalité entre les femmes et les hommes.
Pour féminiser la société et à faire cette égalité. Caroline Dehaas est là pour défendre sa position. Dites-nous ce que vous pensez de la féminisation du vocabulaire. Est-ce qu'on en fait trop au 39-21 ? Vous réagissez. Nous avons Stéphanie et puis monsieur dans le studio qui veut réagir. Face à face, Caroline Dehaas et Guillaume Perrault. Une petite pause. On se retrouve dans deux minutes.
Europe 1. Europe Midi.
Encore quelques minutes pour vous entendre sur la féminisation de l'orthographe. Jusqu'où faut-il aller ? Caroline Dehaas, militante féministe, qui est à l'origine du site macholand.fr, une plateforme lancée demain qui appelle les internautes à épingler les dérapages sexistes dans la pub, dans la politique et chez toutes les personnalités, considère que bien on est bien en retard et que bien soutenir la féminisation des termes, c'est rendre ces femmes plus visibles. Ce n'est pas la position que soutient Guillaume Perrault, journaliste au Figaro, et on vous met face à face avec les réactions d'auditeurs. Sabine nous écrit du Haut-Rhin. Issenheim. L'égalité des chances, oui. L'égalité des salaires, oui. Mais là, je trouve ça stupide. Stéphanie continue, Puy-de-Dôme. Pour moi, le féminisme ne se place pas là. Le combat des femmes, ce n'est pas de se battre pour ça, Caroline Dehaas. Et nous avons, Camille me le signalait, que des femmes au standard qui sont plutôt opposées à votre position. Pourquoi ?
Oui, parce que je comprends bien que quand on voit les chiffres, par exemple, je prends l'exemple des violences faites aux femmes. Il y a 75 000 femmes qui sont violées chaque année en France. Quand on voit ces chiffres-là, on se dit qu'en effet, parler de président ou de président, ça peut paraître tout à fait anecdotique. Moi, ce que je veux juste dire, et c'est ce que racontent d'ailleurs les nombreuses et nombreux chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur le sujet, c'est que on n'arrivera pas à faire une société dans laquelle il y a l'égalité si on continue dans notre langage au quotidien à rendre les femmes invisibles. C'est tout ?
Guillaume Perrault. Voilà l'argument de choc de Caroline Dehaas.
Oui, moi je m'en remets à la beauté de la langue de Molière. L'écrivaine, je trouve ça très laid. La rapporteure, avec un E obligatoire à la fin, ça me paraît affreux.
Si alors vous opposez la politique à l'esthétique.
Si les femmes souhaitent l'idéologie à l'esthétique, oui, ça ne me déplaît pas comme opposition.
Ou l'égalité à l'esthétique, quoi.
Si des femmes souhaitent se désigner elles-mêmes par ces termes qui me semblent disgracieux, c'est leur affaire, c'est leur liberté, je ne prétends pas leur interdire. En revanche, je ne veux pas que moi et toutes les personnes qui partagent ma sensibilité sur ce sujet, on soit contraints de dire et d'écrire l'écrivaine ou la rapporteure
c'est très
affreux.
Intéressant parce que dans le guide pratique d'aide à la féminisation des termes qui date quand même de 1998-99, c'est pas d'hier, il y a tout un paragraphe en introduction qui explique que ça va être très difficile de féminiser en français parce que le français est une langue faite de normes extrêmement fortes et que dès qu'on introduit un nouveau nom, c'est pas uniquement vrai sur la féminisation, hein. En général, dès qu'on introduit un nouveau nom, on a des réactions comme celle de monsieur en rafale. C'est moche, c'est disgracieux. Puis au bout d'un moment, ça rentre dans le vocabulaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur macholand.fr, c'est à 14h aujourd'hui, tout le monde pourra envoyer ce fameux guide à tous les députés qui ont soutenu Julien Aubert pour les aider, parce que manifestement, ils ont un problème avec la lettre E, les aider à féminiser les termes.
Je voudrais réagir à ce procédé, si vous voulez, de pression sur les députés. Je le trouve déplaisant.
Alors attendez, oui, juste alors réaction. Émilie sur Facebook nous dit pourquoi critiquer Sandrine Mastier mais pas Julien Aubert qui n'a pas mis d'eau dans son vin. Il aurait juste pu accéder à la demande.
Mais parce que c'est sa liberté de persister dans le respect de la langue française.
Donc il n'y a pas de règlement à l'Assemblée nationale.
Mais le règlement, pourquoi, au nom de quoi, voudriez-vous contraindre la liberté de l'orateur ?
Donc il peut dire cher Claude en s'adressant à Claude Barthelon, par exemple.
Pas du tout, il n'est pas du tout,
ah, donc il est pas
il
libre
est pas du tout question de ça. Il est libre d'employer une formule de politesse qui, parfaitement respectable, qui traduit une opinion respectable sur un sujet de société. Voilà ce qu'a fait Julien Aubert. Par ailleurs, je voulais juste te dire à propos de ce site, c'est que bon, les groupes de pression font pression, c'est leur vocation. Très bien. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'intimidation. Parce que les élus être élu du suffrage universel, ça veut encore dire quelque chose. C'est ceux que le suffrage universel a choisi pour parler en leur nom. Voilà. Et donc, ça n'autorise pas tous les procédés. Ils ont droit à un minimum d'égards, se faire une espèce de liste des proscrits qu'il faut pointer du doigt. Je trouve ça très déplaisant.
Allez, monsieur en studio veut réagir dans ce débat. Bonjour.
Oui, bonjour, Antoine de Rouen. Alors, monsieur Perrot, tout à l'heure, vous disiez, il n'y a pas de normes, faut pas imposer d'idéologie de la langue, etc. Et après, vous nous dites, il faut que la langue soit belle, il faut respecter ce que dit l'Académie française. Donc, vous mettez des normes quelque part quand même, et vous avez vous-même une idéologie un peu de la langue française. Il me semble que la vraie question dans ce débat, c'est celle du respect. À l'université, une de mes professeurs veut qu'on l'appelle madame plutôt que mademoiselle alors qu'elle n'est pas mariée. C'est une question de respect, de respecter son choix. Si madame Mastier veut qu'on l'appelle madame la présidente, c'est une question de respect. Et je pense que si monsieur Aubert a été sanctionné, c'est parce qu'il a manqué de respect à la présidence et parce que après, non seulement après avoir employé avoir dit madame le président, il a juste dit madame comme ça. Et que là aussi, c'était une question de manque de respect. Je pense qu'on n'est pas dans une... Là, en tout cas, sur le sujet précis dont on parle, on n'est pas sur une question d'idéologie de la langue, on est juste sur une question de respect. Et là, chaque personne a le droit de choisir. Alors, comment est-ce qu'on veut qu'on l'appelle.
Très bien. Est-ce qu'on peut s'entendre sur la notion de respect, Caroline Dehaas? Est-ce que ça vous met d'accord ici, Guillaume Perrot, Caroline?
Oui, je pense que le respect est assez consensuel comme concept. Moi, je suis plutôt d'accord avec le respect, en effet.
Nous avons Élise qui nous écrit, qui écoute ce débat. Je suis une femme, je soutiens Guillaume Perrot parce que Madame Caroline Dehaas veut neutraliser la différence des sexes jusque dans la langue. On se croirait dans 1984 de George Orwell, ce n'est pas à l'État ni de réécrire l'histoire, ni de réécrire la langue. Que lui répondez-vous?
C'est marrant cette crainte de l'indifférenciation. Comme si le fait d'appeler Sandrine Mastier madame la présidente allait lui faire pousser un pénis et des testicules. Enfin, je veux dire, il y a quand même un moment ou un autre un peu de... Il faut être juste rationnel deux secondes. On va pas effacer des différences biologiques entre les individus, si c'est ça qu'elle craint. On va pas créer un nouvel individu, en tout cas c'est pas pour tout de suite, d'après les avancées balbutiantes de la science sur cette question-là, un nouvel individu qui soit ni homme ni femme. Justement, le but de créer l'égalité, c'est plutôt d'ouvrir le champ des possibles et que les gens y sortent des petites cases dans lesquelles ils sont. Les femmes, c'est plutôt une case dans laquelle elles sont victimes de discrimination et en situation d'inégalité pour pouvoir ouvrir le champ des possibles pour toutes et tous. Et moi, je pense que ça passe à un moment ou à un autre par le fait de rendre visible que les femmes, elles peuvent être directrices, présidentes
ou chefs d'entreprise. Est-ce qu'il faut dire, pour répondre à Hazel sur Twitter, qu'il faut rappeler aux journalistes que le mot écrivaine existe, écrire
bien
écrivaine,
sûr.
Rapporteureux.
Oui. Oui, mais tout à l'heure à la télé, je regardais, il y avait marqué fibromyalgie. C'est pas un terme, ça n'a rien à voir avec la féminisation, mais c'est pas un terme très beau. Eh ben, il existe et on l'emploie. Donc, la façon de trouver tel terme beau ou pas beau, à mon avis, ne devrait pas forcément rentrer dans le fait qu'on les emploie. Il y a une présidente, elle s'appelle Madame la Présidente, c'est juste tout bête, quoi.
Bon, tout bête, on va voir si vous avez pu tout bêtement convaincre aussi l'Assemblée qui vous entoure. Caroline Dehaas, vous qui représentiez la féminisation des titres, et pour quelles raisons? Pour porter la cause des femmes, comme militante, fondatrice d'EGAE et porteuse de Macholand, la plateforme qui appelle les internautes à épingler ces dérapages sexistes un peu partout dans la société. Vous votez bleu pour soutenir Guillaume Perrot qui soutient le contraire, vous votez rouge pour soutenir la position de Caroline Dehaas. Autant je vous disais qu'au Standard on était farouchement opposé à votre position, Caroline Dehaas, beaucoup de femmes nous appelaient, autant là, alors que c'est un peu, peut-être un peu plus masculin, ça a l'air plus équilibré. 23 pour Guillaume Perrot et 12 pour Caroline Dehaas. Bon, 23 pour Guillaume Perrot, voilà, qui s'en réfère à l'Académie française. Et Caroline Dehaas, merci en tout cas pour votre énergie, ce combat. Et matcholande.fr, cette plateforme qui est en ligne.
Maintenant, depuis une seconde.
Et bien voilà, merci beaucoup. Et bonjour Franck Ferrand.